Sandrine, es-tu avec nous?
Je suis là.
Donc nous pouvons commencer.
Avec vous.
Bonjour, monsieur Dubon. Nous sommes heureux d'être réunis, non sans quelques difficultés, pour la soutenance de notre thèse de consensus participatif des politiques de la démocratie dans quatre régions françaises. Donc la soutenance passe par la raison suivante. On aurait d'abord la parole pour vous. Votre avocat et directeur de thèse. Puis la parole sera donnée à un des rapporteurs présents, donc Bontio. Ensuite, les questions que M. Kittim, donc n'a pas pu être présent pour des raisons climatiques, a envoyées. Voilà, peut-être nous pourrons une pause après cela. Puis la parole sera à Sandrine et je conclurai. Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du jury, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, chers familles, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente aujourd'hui mon travail de thèse qui aura occupé 4 ans de ma vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues assister à cette soutenance, amis, collègues et familles qui m'ont apporté une aide inestimable durant mon parcours de recherche. Et je tenais à les en remercier chaleureusement ici. Ma thèse porte sur l'émergence et l'institutionnalisation de la démocratie participative à l'échelle des conseils régionaux en France. Elle s'appuie sur la comparaison de 4 conseils régionaux ayant adopté des agencements différenciés de dispositifs participatifs, et ce depuis 1986. J'articulerai ma présentation en 3 points. Je présenterai tout d'abord mon hypothèse de recherche ainsi que les cadres analytiques et méthodologiques. Je présenterai ensuite mes principaux résultats et j'entrerai enfin dans une interprétation et une discussion de ces résultats pour aboutir à la formulation d'une théorie concernant le développement historique des formes institutionnalisées de démocratie participative. Je commence donc par fixer mes hypothèses, mon cadre théorique et ma méthode. Le point de départ de ce travail de thèse est un constat. Un nombre toujours croissant d'autorités publiques à travers le monde revendique la mise en place de forme hétérogène de démocratie participative. Budget participatif, conférences de citoyens, réunions publiques, conseils consultatifs, de développement, sondages délibératifs se succèdent et sont accompagnés par une importante littérature en sciences sociales dont je vis l'explosion en tant qu'étudiant en sciences politiques. Parmi ces diverses manifestations de ce que Loïc Blondiot et Yves Saint-Omer nomment alors l'impératif délibératif, les élections régionales de mars 2004 me permettent d'observer la forte valorisation du terme, particulièrement à l'Ouest en Rhône-Alpes. Les conseils régionaux comptent, à partir de ces élections, comme des acteurs identifiés sur le thème de la démocratie participative. Mon parcours militant me pousse également à interroger cet avènement à la lumière des espoirs et des critiques qu'il suscite dans la gauche altermondialiste et dans la littérature scientifique. À quoi correspond cet engouement? S'agit-il d'une instrumentalisation permettant l'évitement du conflit? S'agit-il d'une alternative politique concrète? Quels en sont les soubassements et les effets? Les déclarations d'intention régionales attirent également la curiosité. Dans quel but les régions françaises entendent-elles pratiquer la démocratie participative? Est-ce un signe d'autonomisation vis-à-vis de l'État? Assiste-t-on à une innovation locale et sociale? Mon mémoire de master me permet de me confronter une première fois à cet exercice de façon monographique. J'étudie un seul dispositif mis en place par le Conseil régional Rhône-Alpes à la suite des annonces de la campagne de 2004. Je parviens à reconstituer les origines institutionnelles ainsi que les enjeux en termes de capacité régionale ou d'action publique. Du cadre de ce premier mémoire d'approche, entrer dans la démocratie participative par son aspect le plus visible, à savoir les dispositifs. Par dispositif participatif, j'entends des procédures expérimentales qui tentent de réunir le plus grand nombre et ou la plus grande diversité de citoyens possible, afin de les associer à un échange sur les différentes strates de l'action publique, devant conduire à une prise en compte de la vie des citoyens. Mais plutôt que de me focaliser sur l'économie interne d'un de ces dispositifs, je m'intéresse à leur insertion dans un cadre institutionnel donné. J'étudie donc les dispositifs participatifs comme des produits de stratégies de démocratisation menées par des coalitions d'acteurs au sein des institutions que forment les conseils régionaux français. Je choisis donc de centrer mon étude sur les acteurs décisionnels à l'origine de l'adoption de ces dispositifs. Mon approche entend ainsi observer la construction des recours à la démocratie participative, en se dégageant de plusieurs écueils, notamment la propension à scinder le personnel politique en deux camps, les progressistes contre les conservateurs, à considérer le rapport à l'action publique sous l'angle exclusif de la légitimation ou de la décision, ou de considérer l'apprentissage croisé et de considérer l'action en des régions en matière de démocratie participative à travers le seul angle de leur performance. L'approche par les institutions me pousse à dépasser le cadre strictement monographique. Je découvre, chemin faisant, l'existence de multiples dispositifs, tous regroupés au sein des mêmes institutions régionales. Je décide alors d'identifier les dispositifs présents dans l'ensemble des régions françaises. Et je mets à jour la présence de nombreux agencements de dispositifs, formant une véritable offre de participation publique. C'est cette offre qui constitue dès lors l'objet de mon travail de thèse. Peut-elle être assimilée à une véritable action publique en matière de démocratie participative? En quoi est-elle structurée par un système de règles inhérentes à l'institution régionale? Je formule alors ma principale hypothèse de recherche. L'offre de participation publique repose sur la présence d'éléments consensuels expliquant son origine, pourquoi, et sa forme, comment. Ces éléments consensuels, dont je n'anticipe pas la nature exacte, peuvent se situer à deux niveaux. Ils peuvent concerner les objectifs et les bénéfices souhaités de la démocratie participative. Ils peuvent concerner également les éléments matériels de mise en œuvre et de gestion de cette démocratie participative. La thèse entreprend alors d'identifier les contours du consensus participatif, à la frontière du pourquoi et du comment. D'un point de vue méthodologique, j'adopte donc une méthode comparative et diachronique. Pour identifier les éléments du consensus participatif, expliquant le déploiement de cette offre de participation, il me faut englober différents agencements régionaux permettant de systématiser l'analyse et de l'étendre à un nombre significatif de dispositifs. Le choix de quatre terrains de recherche obéit dans un premier temps à une logique déductive. Rhône-Alpes et Bourgogne sont choisis en raison de leur affichage en matière de démocratie participative, puis inductive, l'Île-de-France et Nord-Pas-de-Calais sont choisis en raison de leur spécificité organisationnelle d'un côté, historique de l'autre. Les techniques d'enquête retenues pour cette comparaison sont qualitatives. Entretien semi-directif, observation participante de plusieurs mois, revue de littérature grise. La restitution de ce matériau, collecté à partir de cette méthode, s'avère alors tout aussi cruciale que l'enquête elle-même. Dans la mesure où je souhaite mener de front la compréhension du pourquoi et du comment, il me faut m'engager dans un récit historique complet, mené sous l'angle du process writing. L'accumulation progressive de dispositifs participatifs, qui constitue l'armature de chaque agencement régional, est ainsi restituée et analysée dans la thèse sur une période de 20 ans. Ce choix de méthode et d'exploitation de mes données explique les importants développements empiriques livrés dans ma thèse. Et conscient des difficultés de lecture posées par ce choix, j'ai tenté le plus possible de livrer des indications permettant de naviguer dans ma thèse. J'en viens maintenant à mes principaux résultats de recherche. Mes quatre chapitres empiriques reprennent le fil du développement de ces agencements participatifs régionaux. Entre 1986, date de création des institutions régionales, et 2004, on observe que chaque contexte régional est marqué par l'apparition progressive des éléments fondamentaux du développement de la démocratie participative. Le contexte national, bien sûr, avec le développement de dispositifs tels que les comités de l'INTR, l'activisme ambigu des conseils économiques et sociaux régionaux, les premières expérimentations participatives, surtout en région Nord-Pas-de-Calais, mais également l'apparition de partisans de la démocratie participative au sein du personnel politique et administratif, constituent ses principaux éléments. Sur la base de ces héritages, les élections de mars 2004 aboutissent à une reconfiguration des rapports de force politique et administratif. Les coalitions d'acteurs se mettent en place explicitement, comme en Rhône-Alpes ou en Île-de-France, plus discrètement, comme en Nord-Pas-de-Calais, ou pas du tout, comme en région Marco-Bourgogne. Ces configurations régionales donnent alors lieu à une lutte interne entre groupes d'acteurs, politiques et administratifs, qui entendent monopoliser la définition de ce qu'est la démocratie participative régionale et déterminer les conditions de sa mise en œuvre. Cette lutte, cette absence de lutte, conditionne la place de l'enjeu de la démocratie participative. Les initiatives se multiplient alors dans les régions, chaque groupe d'acteurs souhaitant pratiquer la démocratie participative comme il l'entend. À partir de 2004, les quatre régions disposent de véritables agencements de dispositifs. Le maître mot de leur mise en place demeure l'hétérogénéité stratégique. Les ambitions politiques et les effets souhaités de la démocratie participative institutionnalisée restent pluriels et illustrent une combinaison de dispositifs cloisonnés, répondant à des logiques propres et difficilement assimilables à une seule et même norme. Une fois l'exploration chronologique et thématique de l'émergence et du développement de la démocratie participative dans les quatre régions, Il m'a été possible de dégager deux séries de résultats, issues de deux entrées comparatives distinctes. La première entrée met au jour une pluralité causale concernant le pourquoi de la démocratie participative, tandis que le deuxième montre la stabilité du comment. Chaque entrée se subdivise en trois points. Pourquoi faire de la démocratie participative en région? À cette réponse, j'apporte trois facteurs causaux, permettant d'expliquer les différences chronologiques, politiques et substantielles observables dans les quatre agencements régionaux. J'ai ainsi pu mesurer l'influence de la vie coalitionnelle, c'est-à-dire de l'évolution des rapports de force entre partis composant les majorités politiques régionales. Ensuite, l'influence des logiques de coalition d'acteurs qui permettent à des agents administratifs et politiques de s'allier pour garantir la promotion de ces dispositifs en sollicitant l'appui d'acteurs extérieurs. Et enfin, l'influence des sous-systèmes d'action publique qui déterminent largement la manière dont chaque dispositif s'encastre sur des configurations sectorielles spécifiques et obtient des effets sur l'action publique elle-même. Ces effets sur l'action publique sont de différents types et ne peuvent être compris qu'en lien avec les rapports de force de chaque sous-système. Chaque dispositif participatif apparaît et se définit à l'intersection de ces trois facteurs. Selon le dispositif envisagé, une logique peut l'emporter sur les autres, mais aucune n'est jamais absente de la genèse de la mise en œuvre des dispositifs. Comment, ensuite, faire de la démocratie participative en région? Je dégage de mon enquête trois éléments substantiels communs à l'ensemble de ces agencements. Sans ces éléments, aucun des acteurs étudiés n'envisage de mettre en œuvre un quelconque dispositif. Tout d'abord, le souci de la production, de la détention, de l'échange de listes de participants est immédiatement présent et saisissable dans tous les dispositifs participatifs. Faire de la démocratie participative, c'est avant tout posséder une de ces listes pour la construire ou pour l'acheter. Ensuite, on observe la constitution d'un corps d'agents spécialisés chargés de la gestion de ces listes. On distingue alors les fonctionnaires chargés de leur mise à jour et leur monopole des prestataires chargés de leur exploitation, comme dans le cas du tirage du sort. Ces professionnels de la participation tentent également d'enrôler, d'intéresser des universitaires à l'activité dont ils ont la charge, soit qu'ils tentent de puiser auprès d'eux des ressources intellectuelles pour penser leur activité, soit qu'ils attirent leur attention sur le caractère proprement participatif de leur action. Faire de la démocratie participative, c'est donc confier à un groupe d'agents des missions spécifiques permettant de réaliser concrètement les dispositifs, à savoir suivre les populations participantes et les produits de la participation, s'assurer de la bonne tenue, du déroulé et de la logistique de ces dispositifs. Enfin, troisième élément, dans chaque dispositif, les participants interviennent essentiellement par le biais d'un mode d'être spécifique, celui de leur traçabilité. Avant même de considérer la proaction incertaine des participants, on observe que les professionnels organisent en permanence une traçabilité de ces participants qui les réunissent. Pour cela, les participants sont en permanence quantifiés, qualifiés et certifiés. Les dispositifs sont régulièrement réformés sur la base de cette traçabilité, afin d'attirer le plus grand nombre de participants, de constituer un échantillon le plus représentatif possible ou de faire venir des catégories précises de population. Les dispositifs observés ne sont réellement considérés comme relevant de la démocratie participative qu'à partir du moment où ils entreprennent d'élargir le nombre ou les types de publics mobilisés. Cette préoccupation génère une somme de travail administratif colossal et prend le pas, bien souvent, sur la gestion des retombées ou des impacts des dispositifs. Faire de la démocratie participative, c'est prouver que les participants sont bien ceux que l'on voulait atteindre, ou, en cas d'échec, se donner les moyens d'attirer les bonnes populations. Ce que je désigne donc par consensus participatif est compréhensible dans l'articulation de ces deux niveaux du pourquoi et du comment. Malgré des divergences de contexte, de temporalité, d'idéologie, dans la genèse des dispositifs, une même armature technique en garantit la réalisation, et un même souci domine leur mise en œuvre, remplir les espaces de participation institutionnelle sans réellement se préoccuper de leur impact décisionnel. C'est le recours à cette armature qui constitue l'objet du consensus. J'en arrive à ma troisième et dernière partie, s'agissant de l'interprétation de ces résultats. À partir de ces deux niveaux de résultats, je propose une interprétation en trois temps, permettant de relier démocratie participative, exercice du pouvoir et capacité gouvernementale. Premièrement, l'hétérogénéité du pourquoi s'accommode parfaitement avec l'homogénéité du comment. Les stratégies de démocratisation, toujours floues, toujours hétérogènes et parfois en lutte, débouchent sur la mise en œuvre d'une seule et même technologie de participation. Ce décalage nous conduit à identifier la présence d'un dispositif, cette fois-ci au sens coupélien du terme. Ce dispositif relie entre elles les différentes expériences participatives et construit peu à peu ce que j'ai tenté d'appeler une machine de participation. L'usage du terme machine renvoie à quatre idées centrales. D'une part, la machine n'entend jamais contraindre, mais plutôt encadrer les comportements individuels. Elle se déploie sur le territoire, tel un dispositif de normalisation, qui rapporte les comportements politiques des individus à la possibilité de la participation, qu'elle entend ouvrir à des fragments toujours plus importants de population. D'autre part, la machine de participation tend à l'efficacité, le deuxième point. Assurer la présence du plus grand nombre ou de la plus grande diversité de participants à l'aide d'une rationalisation du travail de mobilisation des individus constitue le cœur de la machine. Ensuite, troisième point, la machine produit sans cesse de la participation et tend à s'autonomiser des intentions de ses producteurs. Elle charrie sans cesse des avis, des propositions, des comptes rendus, des prises de parole, des conseils, des protestations qui submergent littéralement les agents en charge de leur mise en œuvre. La question de l'usage de ces produits se pose sans cesse et la plupart de ces produits embarrassent leurs producteurs qui ne savent au final qu'en faire. Enfin, et ce sera le quatrième point, la machine est profondément expérimentale. Elle intègre ses échecs comme autant de moteurs. Elle ose user de techniques controversées comme le tirage au sort grâce à la force de sa routinisation qui anime les violentes polémiques ayant surgi à leur égard. Elle cherche sans cesse les meilleures techniques. La machine de participation n'est pourtant pas en elle-même le résultat de ma recherche. Elle constitue en réalité un levier analytique qui nous permet de réinvestir les objectifs initiaux, à savoir les conseils régionaux et bien sûr la démocratie participative. Ainsi, vu depuis la machine de participation, les conseils régionaux ne sont plus considérés comme des institutions fixes, ayant pour seule ambition de renforcer leur assise politique. Elles sont plutôt conçues, les conseils régionaux, comme des cristallisations institutionnelles parmi d'autres d'un phénomène plus vaste. C'est celui de la construction d'une capacité gouvernementale, d'une mise en participation. Les régions françaises ne sont qu'un acteur parmi d'autres de ce mouvement. Les stratégies de légitimation, de renforcement, de capacité politique régionale ne sont qu'une des causalités qui alimentent ce processus. La capacité de mise en participation permet en réalité à un nombre toujours plus vaste d'autorités publiques et privées de se doter d'une machine comparable à celle observée en région. Pour citer quelques exemples, les autorités locales anglaises sous influence néoconservatrice ou travailliste, ou bien les communes de la banlieue rouge française parisienne, donnent à voir de telles évolutions. Se dessinent alors les frontières d'un mode de gouvernement contemporain, qui ne saurait se substituer au mode classique, mais bien plutôt les compléter. Gouverner, c'est manipuler la frontière entre entrepreneurs politiques et citoyens, de manière à la tordre, à la renverser épisodiquement, s'assurant du contrôle d'une machine de participation qui garantit le retour à la normale une fois clos les espaces de participation. Si ce mouvement n'est pas coercitif, ni strictement répressif, il n'en interroge pas moins la diffusion d'une logique gouvernementale au cœur des processus de mobilisation collective. S'ouvre alors une discussion sur la prise en compte de cet effet de la mise en place d'agencement de dispositifs participatifs sur l'autonomie des acteurs sociaux. En l'énonçant depuis la machine de participation, j'ai tenté de redonner à ce débat toute sa forme et de souligner l'importance de sa conduite. Il ne concerne pas seulement les effets éventuels des manipulations ou d'évitement du conflit imputables à la démocratie participative. Il doit envisager, à mon sens, les inévitables tensions provoquées par le déploiement d'une technologie gouvernementale spécifique. En conclusion de ce travail, j'ai souhaité me confronter plus directement à l'enjeu qui m'avait conduit à entrer dans une étude approfondie de la démocratie participative, à savoir la place et l'utilité d'une pensée critique à son égard. Je déduis de mon parcours de recherche la nécessité de toujours penser la critique de la participation à la frontière de deux dynamiques empruntées à Jacques Rancière, à savoir celle de la politique et celle de la police. La politique est ici conçue comme l'affirmation discontinue de l'égalité, tandis que la police consiste à répartir et à ordonner les hommes et les choses. Mon travail indique que la démocratie participative constitue un acte profondément policier. Elle convoque, elle répartit, elle organise, elle catégorise. Une fois cette distinction faite et cette clarification apportée, il convient toutefois d'en préciser le double statut critique et la portée analytique. Premièrement, il me semble inutile d'entrer dans une critique de la participation à l'aide d'un regard politique. La démocratie participative n'est pas un acte spontané d'affirmation égalitaire, nous l'avons compris. Il ne s'agit pas là d'une démystification et d'une évidence. S'engager dans une recherche normative de la démocratie qui l'assimile à l'auto-émancipation ou à l'affirmation égalitaire implique en réalité de changer les lieux et les outils de la recherche. J'ai tenté dans plusieurs de mes travaux de saisir les rouages de cette politique démocratique. J'ai suivi une association locale de personnes précaires inventant un mode d'être égalitaire. J'ai tenté également de réfléchir à la grève productive des usines libres en 1973. J'ai alors choisi de me détourner des espaces institutionnels de la participation et de me doter d'autres outils d'analyse distincts d'une sociologie politique classique. Mais deuxièmement, qualifier la démocratie participative d'acte policier, comme je le fais dans ma thèse, ce n'est pas la réduire à un acte répressif ou coercitif. La police peut être une bonne police, mais n'en constitue pas moins l'envers de la politique. En réalité, envisager le caractère policier de la participation, c'est valoriser son aspect proprement gouvernemental et prendre au sérieux son processus d'institutionnalisation. Cette valorisation nous amène à envisager une voie critique reprenant le fil d'une sociologie politique classique de la démocratie. Ainsi, la démocratie participative doit et peut être comprise sous l'angle de l'histoire de ces technologies qui sous-tend le consensus existant autour de sa mise en place. De la même manière qu'Alain Garrigou ou Jacques Lacroix ont entrepris d'exhumer l'histoire des technologies de la représentation, je souhaite engager et conduire une histoire vers une généalogie des techniques de l'encadrement participatif, qui nous amènera, je l'espère, à comprendre la nature du gouvernement démocratique contemporain. Je vous remercie de votre attention.
Merci bien pour cette synthèse claire. Du coup, donc la parole est à votre directeur du CAIS, Alain Faure.
Merci, Monsieur le Président. C'est avec un immense plaisir et pas mal d'émotions que j'ouvre le bal d'évaluation de ce travail de thèse. Pour commencer, je démarre par une note baroque, c'est la citation en exergue de la thèse, là, je vous la lis, c'est rapide. Bien que j'ai eu de l'aisance à partir vers l'inconnu, je n'aurais pourtant jamais cru mettre autant d'excellence, mon amour propre comme une lance pointe vers l'obscur, le tordu, la besogne d'un mec obtus qui s'abîme vers l'existence. J'ai bien failli y perdre le sens, et beaucoup s'y sont perdus. Combien d'amis elle a eu, celle qu'on donne des espérances. Pourtant, je reste comme en France, attaché dans le mordu, à ces choses qui épuisent, tuent, me feraient déplacer l'immense. C'est pas du Mallarmé, c'est pas du Rimbaud, du Bovin, un rappeur contemporain. C'est la façon dont Guillaume a démarré sa thèse et ça illustre tout l'état d'esprit de ce thésard dans tout ce qu'il fait. Il est à la fois désespéré, enthousiaste et pétillant d'intelligence. Et c'est de cette combinaison dont j'avais vous parler. Pour l'anecdote, j'ai rencontré un peu dans ce cadre, il est venu dans mon bureau il y a 5-6 ans. Il avait toutes ses affaires, il revenait de Barcelone, il n'avait pas de directeur de mémoire, c'était la cata complète. Et il était légèrement désespéré et totalement enthousiaste. C'est-à-dire que j'ai eu dès le début cette équation particulière d'une ligne un peu difficile où il se bat contre beaucoup de choses à la fois avec énormément d'idées. Alors il a fait son DEA, il a fait 150 pages pour un mémoire de DEA, il a commencé très tôt à écrire beaucoup, très bon. Très vite, il est devenu mon collaborateur. On est parti dans une grande enquête sur les transports régionaux. Et très rapidement, j'avais l'impression de travailler avec un collègue et pas avec un jeune chercheur qui a tout à apprendre. Et mon premier diagnostic, c'était qu'il irait tout droit à l'épuisement. J'ai très vite eu l'impression qu'il en faisait trop, qu'il disait trop, qu'il collectait trop. Et ce sont les autres qu'il a épuisé et qu'il épuise. Donc, le premier bilan que je peux faire pendant 5 ans. Alors, du coup, je cherchais des qualificatifs pour essayer de cerner ce qu'il fait dans la recherche. Il y en a 4 qui sont venus tout de suite à l'esprit: révolté, boulimique, clairvoyant, rafraîchissant. Alors, je vais m'expliquer parce que vous allez voir, ça a à voir avec le contenu et le fond. Révolté parce qu'il a pour moi vraiment une posture d'intellectuel avec une obsession d'une pensée critique. Il est toujours en train de déconstruire, de reconstruire. Donc, il y a une. Je l'avais dès ma première rencontre dans mon bureau, j'avais senti ça. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans une lecture critique du monde. boulimique, là, c'est boulimique de lecture, boulimique de travaux. Tous ceux qui l'ont employé savent qu'il ne faut jamais lui donner une référence, parce que tout de suite, il va lire l'ouvrage dont on a parlé. Donc, une capacité absolument phénoménale à digérer énormément d'informations et aller sur le terrain tout le temps. Clairvoyant. Alors, j'insiste sur cette idée. Et moi, je trouve qu'on le trouve parfaitement dans ma présentation, Guillaume. Clairvoyance, c'est cet esprit critique en même temps. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité, toujours, à la fois d'être sur énormément d'informations et de toujours tirer les informations les plus importantes. C'est le chapitre 8, que je trouve absolument super dans la thèse, sur les rouages, sur les listes, la professionnalisation, la traçabilité, où il y a cet esprit de synthèse très particulier. Alors, j'ai sollicité souvent Guillaume dans d'autres champs comme la démocratie participative, pour faire des analyses, pour commenter des papiers. Et il a toujours eu cette espèce de clairvoyance. Et plus rafraîchissant, parce que Guillaume est extrêmement curieux. Il y a une espèce de curiosité permanente sur les nouveaux auteurs, les nouvelles problématiques. Je vous avoue pour l'anecdote que dans les derniers mois de rédaction de la thèse, quand il entrait dans mon bureau, je ne lui donnais pas de nouvelles idées. C'est-à-dire, je ne lui parlais pas de ce que je faisais, je ne lui parlais pas de ce qui me préoccupait, parce que j'avais peur qu'il se saisisse de ça et qu'il laisse un peu sa thèse pour prendre un nouveau chantier. Donc je me suis à la fin censuré dans le dialogue avec lui. Alors, à part ces quatre qualificatifs, moi j'insisterai alors, avec le recul sur l'idée que c'est, s'il fallait qualifier, pour moi c'est un théoricien redoutable. C'est-à-dire que c'est sur le champ de la théorie qu'il amène les questions les plus fortes. Et toutes les qualités que je viens de lister, qui sont parfois un peu incompatibles, elles sont dans sa thèse. Et c'est peut-être pour ça que sa thèse est si longue, si touffue, si démesurée. Elle est à la mesure quand même de son chantier. Et pour moi, alors, elle représente vraiment ce que doit être une thèse. Vous verrez, j'ai des critiques sur le contenu, mais la thèse, c'est vraiment d'exploration sans limite. Et Guillaume n'a jamais dérogé à cette idée qu'il fallait aller au bout du bout dans les questionnements. Alors, tout de suite, je tiens à insister sur un point. Souvent, quand on félicite un doctorant, un futur docteur, pour le directeur de thèse, c'est une façon de s'envoyer des fleurs. Et je récuse tout de suite cette posture dans la mesure où cette thèse m'a totalement échappé. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que j'ai dirigé cette thèse. Guillaume est extrêmement autonome et indépendant d'esprit dans sa façon de travailler. Et je l'ai plutôt accompagné. Je vais vous donner trois éléments pour montrer que la thèse m'a échappé. Tout d'abord, on était parti sur une thèse de politique publique et décentralisation, l'analyse des politiques publiques, décentralisation. Et très rapidement, il a montré que même si c'était politique publique et décentralisation, il allait sur d'autres terrains. Il a assumé sur le terrain de la démocratie, il sollicitait des philosophes, il parlait d'épistémologie, il lançait des débats pointus sur une interprétation fine de Foucault ou de Rancière. Donc tout de suite, il m'a montré qu'il voulait s'évader d'un cadre un peu convenu, d'analyse des politiques publiques et d'analyse de la décentralisation. Le deuxième échappement dans cette thèse concerne la concision. Là, je dois dire que c'est à la fois c'est amusant et terrible parce que je suis obsédé par les documents courts, par les travaux synthétiques, par les propres on dit l'essentiel. On a inventé avec un collègue, Emmanuel Légrier, le sermon dominicain de 7 minutes. On doit pouvoir tout dire en 7 minutes, pas plus. Et Guillaume a fait une thèse de 1000 pages. Donc il m'a complètement débordé sur ce terrain. Et je dois vous avouer que à la relecture, je ne regrette pas cette longueur. Elle pose problème, mais dans le cadre d'une thèse, je ne regrette pas cette longueur. J'ai ouï dire qu'il l'avait déjà quasiment réécrite à mi-volume, c'est-à-dire qu'il a commencé un travail pour réécrire quelque chose de beaucoup plus compact. Mais on s'était battu beaucoup sur le compact ou pas compact, et finalement j'ai lâché. Moi je râle souvent quand je suis dans des jurys de soutenance avec des grosses têtes, et j'ai eu beaucoup de plaisir à la lire, je trouve qu'elle est bien écrite, hormis alors l'état qui tue les fautes d'orthographe, mais fâché avec les accords grammaticaux, même après 18 relectures de ses fidèles relecteurs.
Donc, deuxième échec dans la direction thèse, et puis le troisième échappement, c'est le comparatisme. D'emblée, je l'avais dit, pour faire du comparatisme international, vous savez, c'est dans l'air du temps en sciences politiques, on ne peut pas avancer si on n'a pas des terrains dans plusieurs pays. Et lui, tout de suite, m'avait dit, mais je ne suis pas convaincu, on peut très bien, sur une tête d'épingle en France, dire des choses importantes sur l'évolution de la démocratie. Et je dois vous avouer, là aussi, finalement, au bout du compte, je suis assez convaincu par sa démonstration. Il entre dans des débats internationaux, il mobilise des terrains internationaux, mais il n'a pas fait du terrain étranger, et ça n'invalide pas son travail de thèse. Donc, ce sont les trois éléments, qui marquent finalement cette distance. Donc, je ne serai pas l'avocat, mais j'ai été l'accompagnateur de cette thèse. Pour dire deux mots sur cette touche bourgeoise, je prendrai volontiers le chapitre 7 qui pourrait entrer dans le livre des records. Le chapitre 7 fait 12 pages dans une thèse qui fait 1000 pages. Il arrive à faire un chapitre de 12 pages avec quand même une annexe de 300 pages. Mais dans sa réflexion sur les déclinaisons régionalisées de la démocratie participative, il dit tout d'un coup en 12 pages tout ce qu'on peut dire d'immense et de très contenu. Alors, j'entre un tout petit peu dans le détail pour illustrer pour le public. Troisième paragraphe, première ligne, nous avons souhaité entrer dans le détail empirique de l'émergence de ce dispositif considéré. Un peu plus loin, cette recherche, pour être convaincante, doit être tendue à l'exhaustivité. Un peu plus loin, c'est une étude casuistique. Chacune des régions est étudiée indépendamment. Il renvoie donc au volume 2 qui est avec une annexe de 300 pages, et il dit en conclusion, on trouve donc la trajectoire différenciée, un processus complexe et hétérogène, qui interdit les conclusions intermédiaires, car il faut laisser l'exploitation des données empiriques à une analyse plus conséquente et minutieuse. Et il émet quand même trois conclusions. Et il me semble que dans ce condensé, dans ce chapitre, il y a toute la dialectique bourguienne, c'est-à-dire être à la fois dans l'hyper minutie, l'hyper-précision empirique, et faire des grandes montées en généralité, et toujours terminer les montées en généralité par un doute. Un doute qu'on trouve de super façon, je trouve, dans sa conclusion, la conclusion où il pose la question des apories de la critique démocratique, et où il est construit. Et où il se détache, après avoir beaucoup déconstruit le travail des intellectuels qui travaillent sur la démocratie participative, il s'applique le même raisonnement, et il montre à la fin de sa thèse, sur une longue conclusion, toutes les limites qu'il faut mettre dans ce travail intellectuel. Et c'est ça, en fait, le savoir-faire de cette thèse. Moi, c'est ce que j'ai énormément apprécié en lisant. Alors, j'aimerais terminer avec quand même trois questions aux chercheurs sur cette thèse, sur sa méthode et à la fois sur ses résultats. Alors, sur la méthode, c'est le chapitre 2. En permanence, moi, en te lisant, disons, je me dis, est-ce que donc une thèse, c'est ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, quand on est directeur de thèse, imposer au doctorant un travail aussi phénoménal? Pour te poser ma question plus simplement, est-ce que tu n'aurais pas pu arriver aux mêmes conclusions sans faire des détours aussi longs, aussi minutieux, aussi subtils, à la fois sur le terrain et à la fois avec la théorie politique? Première question. Ma seconde question, ma deuxième question porte sur les résultats, sur le chapitre 6, notamment sur la question du dénonciateur de la démocratie participative. En disant, je me disais, finalement, est-ce que ta réflexion très, très pertinente hein, sur le réenchantement par les mots de la démocratie participative, comment chaque région donne du sens, construit du sens sur la question de la démocratie participative, et où tu montres que les professionnels ils jouent un rôle assez important, voire très important. Et je me demandais en disant, est-ce que tu n'es pas victime d'un terrain qui est trop jeune, trop frais. Trop jeune, la région, une institution trop récente, la démocratie participative, une thématique qui vient d'arriver, et que de ce fait, tu ne vois pas une partie du travail politique, de réenchantement politique, de construction des récits, qui est du registre politique électoral classique, de représentation. C'est-à-dire, est-ce que tu n'as pas surdimensionné la question de cette nouvelle façon d'énoncer le bien commun, parce que tu restes sur un objet qui avait des caractéristiques de nouveautés trop fortes. Et puis ma troisième question, c'est sur la grosse hypothèse du chapitre 9 du contrôle démocratique, la machine concrète de participation. Tu montres bien cette cristallisation institutionnelle avec la régionalisation. Et alors là, c'est plus une question prospective. Est-ce que cette belle réflexion ouverte sur la régionalisation, tu pourrais la reprendre sur la métropolisation, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que ton modèle est exportable? Et ça serait une façon de parler de la territorialisation de l'action publique. C'est-à-dire, est-ce que
cette nouvelle façon de construire de façon plus dynamique le lien démocratique pour nos habitants, on pourrait l'appliquer. Alors si je pose cette question, c'est une arrière-pensée, il me semble que les règles de la conflictualité politique ne sont pas les mêmes dans une métropole et à l'échelle d'une région. Et donc, du coup, est-ce que dans ton modèle, risque pas d'être un peu bousculé? Je l'ai dit en intro, je le répète en guise de conclusion, c'était pour moi un immense plaisir de t'accompagner pendant ces 5 ans sur les fondations d'un grand chantier intellectuel, j'en suis convaincu.
Alors merci pour les commentaires et les questions. Peut-être pour apporter 3 éléments de réponse rapides, essayer d'être succinct. Alors sur la question de la taille de l'amphibie et de la démarche méthodologique, j'avais participé il y a un ou deux ans à un colloque où j'avais présenté on va dire, les ébauches de mes résultats concernant notamment l'hétérogénéité stratégique de l'hétérogénéité pratique. J'avais commencé à rentrer dans mes pérégrinations foucaldiennes et on m'avait dit en commentaire à ce colloque prouvez-le. C'est-à-dire que les éléments technologiques, ce que j'avançais sur les listes, sur les professionnels, on m'avait dit que ça méritait l'administration d'une preuve assez conséquente, puisque ces éléments étaient difficilement saisissables immédiatement. Et donc je me suis longtemps creusé la tête pour savoir comment administrer cette preuve, et j'ai longtemps cherché au niveau des méthodes, au niveau de la manière de restituer mon terrain, comment faire pour administrer cette preuve. Et donc je me suis retourné vers notamment ce qu'a écrit Benson sur le process tracing, et j'ai remonté comme ça cette manière de restituer un rendu historique du développement en essayant de ne pas trop hiérarchiser les informations, de les laisser s'accumuler les unes au bout des autres, et de montrer comment ces éléments au final apparaissaient. J'avais envie de restituer un processus. Donc je me suis retrouvé au bout d'un moment à écrire, je me rendais bien compte. Et une fois que j'ai eu fini, on va dire, d'administrer la preuve comme je l'entendais, s'est posé la question de la taille. Et donc j'ai essayé de réagencer mon texte autour de mon chapitre 6, donc qui est le chapitre où je ramasse un peu la mise sur les trois éléments de l'hétérogénéité et de l'homogénéité. J'ai essayé et j'en étais pas satisfait. Je me suis rendu compte que j'arrivais pas à restituer les éléments de preuve comme je voulais les restituer, et donc j'ai fait le pari un peu acrobate de laisser ces administrations de preuve en tant que telles. Alors effectivement, je me suis déjà penché sur une manière de réagencer ces éléments en les hiérarchisant mieux, et puis je me suis confronté par ailleurs à des exigences d'écriture très synthétiques pour des articles, etc. Et je me suis dit, ma thèse, c'est l'occasion jamais d'explorer cette méthode que je voulais conduire jusqu'au bout. C'est essentiellement pour ça que je vous le fais. Sur la deuxième question des récits, moi j'ai une approche des récits extrêmement classique et extrêmement proche de l'analyse des politiques publiques. C'est-à-dire que pour moi, un récit, je le rapporte à ce que raconte Claudio Radaelli, c'est-à-dire c'est un instrument de pouvoir et un instrument éminemment stratégique. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu montrer dans mon chapitre sur les énonciateurs, c'est essentiellement la manière dont ces énonciateurs racontaient la manière dont il fallait faire de la démocratie participative pour acquérir le maximum de ressources afin d'en faire, tout simplement. Donc je ne me suis pas vraiment penché sur la question du récit régional au sens d'un réenchantement à la rigueur. Ce que j'ai vu, c'est un récit régional au niveau d'une dramatisation de la nécessité pour le conseil régional de faire participer les gens. Et notamment, j'avais vu ça quand j'avais travaillé sur les comités de l'UNTER, où j'avais observé cette opération. Mais pour moi, le récit, c'est vraiment quelque chose qui ne peut être compris qu'à la lumière des jeux d'acteurs, et qui, en fait, est un révélateur de ces jeux d'acteurs. Et la troisième question sur la métropolisation, j'ai beaucoup lu, comme tous les étudiants qui s'attellent au sujet de la décentralisation des travaux de Bernard Jouve, sur justement l'aspect très conflictuel des métropoles et la spécificité de la participation qui est produite à l'échelle des métropoles. Alors là, en termes d'évitement du conflit et en termes de, on va dire, on occupe la population pendant que le capitalisme se réétalonne, et au final, la conflictualité politique quasi nulle dans les agglomérations, en tout cas, si je reprends les travaux de Fabien Desage et David Guéranger, cette espèce d'aspect très consensuel de la participation donnerait à voir un schéma un peu différent du mien. J'ai commencé à travailler sur les chefs d'agglomération, sur Newcastle, sur La Haye, sur Grenoble notamment, et j'ai l'impression de voir les traces de ce consensus donc, que j'ai évoqué. Je retrouve les cordes professionnelles, je retrouve l'obsession de la traçabilité, je retrouve les dialogues établis et consolidés entre des corps spécifiques de citoyens et des corps spécifiques de professionnels. Et j'ai l'impression que ces machines travaillent un peu d'elles-mêmes. Il me vient immédiatement en tête ce qui s'est passé après les violences qu'il y a eu à la Villeneuve cet été. La mairie et l'agglomération ont automatiquement mis à disposition un dispositif participatif dont on se demande encore aujourd'hui sur quoi il va pouvoir déboucher. Valérie Salapala a fait le jeu de son étude à Saint-Étienne où elle a montré comment, face aux émeutes, on répond avec dispositif participatif, avec une certaine déconnexion des enjeux. Et donc j'ai l'impression de revoir cet aspect automatique et cet aspect un peu routinisé de la réponse participative. Mais c'est des chantiers encore à explorer. À l'échelle internationale, la région et la métropole se confondent. Il y a des travaux sur le New Regionalism notamment qui évoquent la question métropolitaine. Donc j'ai dans l'espoir de pouvoir quand même faire dialoguer mes terrains et ces perspectives plus urbaines et plus métropolitaines.
Merci bien. La parole est là pour le rapporteur.
Oui, bonjour. Oui, Guillaume, je comme d'habitude, et comme dans tout état, je vais dire à quel point je suis heureux de participer à cette séquence. Je vais dire aussi à quel point votre thèse m'est apparue à la fois impressionnante et éprouvante, épuisante. C'est un beau titre, c'est aussi un qualificatif que j'utiliserai. Et je vais essayer de dire pourquoi. Mais juste avant, je vais vous dire, le plaisir que j'ai a été redoublé par le fait qu'en même semaine, j'ai participé au jury de deux thèses qui sont absolument radicalement différentes, la thèse d'Alice Mazot et puis la vôtre, mais qui portent toutes les deux finalement sur la même question, sur la démocratie participative en région et sur une volonté de réconcilier d'un certain point de vue la sociologie de l'action publique et la sociologie des dispositifs participatifs, mais qui le font avec une telle différence d'approche, de style, que c'en est absolument fascinant. C'est un peu la différence d'un quatuor de Mozart ou une symphonie de Shostakovich. Je vous laisse deviner qui est l'un, qui est l'autre. Ce sera très intéressant pour les lecteurs à lire de ces deux ouvrages, de comparer finalement la méthode et puis de regarder finalement ce qu'elle produit. Dans les deux cas, ça produit des choses tout à fait intéressantes. Alors d'abord vous dire une thèse, pourquoi c'est une thèse impressionnante, vous dire ensuite pourquoi c'est une thèse épuisante et éprouvante, et puis un certain nombre de questions, pas très classiques. Donc, thèse impressionnante parce que comme dans toutes les bonnes thèses, et même les très bonnes thèses, il y a une ambition, un travail et des résultats. L'ambition, elle est très claire dans la thèse, c'est repenser la question de la démocratie participative tout en la prenant au sérieux, détruire purement et simplement l'hypothèse de l'impératif participatif ou délibératif qu'on avait développé avec Saint-Omer, et c'est très bien, c'est très heureux, l'hypothèse tellement générale qu'elle n'attendait que cela, et recontextualiser dans l'espace et dans le temps les recours à cette notion et les recours aux instruments qu'elle désigne. Cette volonté de prendre en compte des sites institutionnels, des systèmes d'action, cette volonté de décrire extrêmement finement ces usages de la démocratie participative me semble tout à fait important. Deuxième élément important, deuxième ambition, une contribution à la sociologie des acteurs de la participation, sociologie des professionnels de la participation, et vous intéresser à la relation entre fonctionnaires et élus en allant au plus près de ce que font ces fonctionnaires de la participation, et je trouve que c'est extrêmement précieux, votre description est extrêmement précieuse et c'est tout à fait passionnant. L'utilisation que vous faites de la notion de coalition d'acteurs me paraît extrêmement bien fonctionner. Troisième ambition, donc replacer l'analyse des dispositifs participatifs dans la sociologie de l'action publique et de l'administration, et ça me paraît être très important aujourd'hui que d'y parvenir. Donc une ambition forte, et un pari qui est assez largement tenu parce qu'il y a énormément de travail. C'était mon rôle de rapporteur, je ne vais pas reprendre mon rapport de thèse, mais c'était mon rôle de rapporteur que de souligner à la fois votre maîtrise assez exceptionnelle des concepts, des outils, de la sociologie politique, en l'occurrence de l'analyse localisée des politiques, de la sociologie de l'action publique, de la théorie politique, de la littérature spécialisée sur la participation. Vraiment, c'est vrai, l'image du dynamique est tout à fait, et ça c'est quelque chose de très impressionnant. Il y a une enquête de terrain rigoureuse, moi j'ai beaucoup apprécié ce que vous faites dire à vos acteurs. Vous les interrogez, vous en interrogez beaucoup, 80, mais surtout vous les faites parler et vous obtenez d'eux des choses extrêmement intéressantes sur leur perception, sur leur représentation. Et ça, ça révèle de vraies qualités d'enquêteurs. Vous avez des qualités de théoricien, mais je n'aimerais pas que vous abandonniez vos qualités d'enquêteur. C'est-à-dire que vous, pour basculer dans la théorie politique, on a plus besoin de chercheurs aussi rigoureux que vous, que de théoriciens. On n'a pas besoin de nouveaux anciens. Hein. En tout cas, on a moins besoin, me semble-t-il, la discipline, on a moins besoin, en tout cas de mon point de vue. Votre analyse comparative centrée sur les cas, elle est, à mon avis, bien tenue. Vous seriez allé au-delà si vous aviez essayé de revenir au langage des variables, comme vous le demandait votre autre rapporteur. Je pense que ça aurait détruit, finalement, en tout cas, analysé très fortement votre propos. Le nombre de dispositifs suivis est tout à fait impressionnant et c'est une thèse d'une richesse empirique tout à fait remarquable. Des résultats, vous y êtes revenus, j'y reviens dans mon rapport. C'est d'abord un travail sur la genèse des dispositifs, hein, sur l'histoire finalement de leur introduction dans ces quatre régions. C'est un travail spécifique sur les énonciateurs de la démocratie participative et sur leur rôle de mise en scène, de mise en forme, de mise en sens de la participation, sur leur stratégie d'alliance, notamment avec les sciences sociales. J'y reviendrai. C'est une thèse aussi, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit votre directeur, qui met bien en évidence les invariants de la démocratie participative à l'échelle régionale, l'impact des coalitions partisanes, la force des coalitions d'acteurs, le rôle des instruments de traçabilité, tout cela me paraît extrêmement convaincant et votre chapitre 8 est de ce point de vue un modèle en ce qui rassemble finalement l'ensemble. Et puis c'est une thèse qui défend une thèse. Hein, ça c'est tout à fait, et c'est effectivement là que je risque de vous d'aller vous chercher. Vous n'hésitez pas, vous y allez franco. Hein, je veux dire que grosso modo, là, le chapitre 9, j'y reviendrai, et une proposition théorique d'une audace qui me paraît tout à fait louable. Mais bon, voilà. Alors. Thèse impressionnante, thèse épuisante, éprouvante, jamais je n'en ai bavé autant. Honnêtement, on en a lu beaucoup, etc. J'ai ramé, pour vous dire. Je ne suis pas à moi, d'accord, bon, votre style n'est pas un modèle de concision, d'élégance, hein, non, je ne peux pas dire ça. Hein. Et puis, je trouve que la manière dont vous, le subterfuge grossier que vous utilisez pour nous faire passer un chapitre 6 de 12 pages, qui renvoie à un volume de 250 pages, de 300 pages, ça je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien, parce que quand on arrive là, on se dit, bon voilà, on est au bout du tunnel, et il faut se retaper 300, et ça c'est très bon. Autant qu'à faire, autant faire les pages tout de suite. Hein, je ne comprends pas du tout, voilà, vraiment, il fallait l'assumer, hein, vous êtes une thèse. Je trouve aussi que vous êtes un forcené de l'explicitation, je trouve que c'est tout à fait louable. Je trouve un peu moins nécessaire, me semble-t-il, la manière un peu ostentatoire quelquefois que vous avez de montrer que vous maîtrisez un champ de littérature. Ça, je pense que ça, c'est un péché de jeunesse. J'espère que il vous quittera. Bon, il y a des développements, honnêtement, des développements qui ne sont pas forcément utiles, notamment dans la présentation de la littérature. Je pense aussi que quelque part, vous avez quand même été un peu débordé par votre matériau. J'adore cette page 164. Où vous dites que lorsque vous avez fait votre observation participante, vous avez recueilli un matériau considérable, mais vous avez été obligé d'en mettre un peu de côté pour maintenir un équilibre comparatif avec les autres. Hein, c'est-à-dire que, bon, là, je vous dis, je ne veux pas voir dans quel état est votre bureau. Hein, ça doit être absolument, vous avez vu à un moment être vous-même la vie submergée par votre travail. Alors. Maintenant, je vais en venir à ma principale critique avant de poser un certain nombre de questions. Alors, mes critiques principales portent presque toutes sur le chapitre 9. Mais les autres, vous verrez que mes questions ou mes remarques qui suivent sont plus légères et portent sur d'autres aspects de la tête. Alors, première surprise dans votre chapitre 9, c'est que vous passez pas mal de temps à vouloir rejeter le fonctionnalisme. Hein, je vous cite, vous déclarez page 51, vouloir dépasser les abords de l'analyse critique tout en évitant de produire un fonctionnalisme et donc de construire une hypothèse trop englobante relative au contexte d'implantation des dispositifs. Alors vous prétendez faire ça et vous vous trahissez d'une manière absolument incroyable puisque vous faites exactement l'inverse. Dans votre thèse, une hypothèse fonctionnaliste, me semble-t-il, extrêmement englobante et qui semble véritablement vous placer d'emblée à un autre niveau d'interprétation que ce que produit la thèse. Je pense très sincèrement qu'il y a un saut, un coup de force théorique qui, malgré la précision de votre dossier, ne se justifie pas. Alors. Je reprends un petit peu vos propositions. Page 644. Les régions françaises participent en réalité à un processus plus vaste et discontinu, à savoir la construction progressive d'une capacité gouvernementale de mise en participation du social. Se situe à un niveau vraiment d'abstraction très, très, très élevé. Suivi de la machine de participation véhicule un phénomène général de gouvernementalisation des conduites politiques individuelles. Alors. Puisqu'il s'agit de faire une proposition aussi générale, j'aurais aimé avoir d'autres éléments sur les autres dimensions de ce projet plus général que vous identifiez. C'est-à-dire que, grosso modo, vous nous parlez de la démocratie participative, mais vous ne nous parlez pas une fois de la démocratie participative, vous nous parlez des transformations de la démocratie en général, hein, et des techniques de gouvernement. J'aurais aimé que vous alliez un peu plus loin. Deuxième élément qui me paraît un peu problématique, si on a affaire à un phénomène aussi général, comment expliquer que finalement les expériences de démocratie participative soient aussi peu nombreuses? Comment expliquer aussi qu'elles soient aussi fragiles? C'est-à-dire que les processus sont extrêmement réversibles et dépendent de très peu de choses, dépendent d'un changement d'acteur, et ces machines dont vous parlez, finalement, elles s'arrêtent tout simplement. Et on a suffisamment de recul maintenant pour observer ces phénomènes. Troisième élément, comment expliquer que, en partant du principe, à mon avis raisonnable, que les acteurs ne sont pas des idiots, comment expliquer que l'on mobilise autant de moyens pour des résultats aussi peu? Parce que vous le dites à un autre moment, finalement, la démocratie participative reste marginale, cette capacité de mobilisation, elle est finalement assez nominale, hein, finalement, ces acteurs-là, on n'en fait pas grand-chose. On les connaît, on les enregistre, on les liste, on les inscrit dans des dispositifs, on les trace, mais finalement on n'en fait pas grand-chose et surtout ils résistent très fort. Alors la grande limite de votre travail, c'est l'aspect que font les citoyens dans ces dispositifs. Alors ils sont totalement absents, ou presque totalement absents. Il y a assez de développement intéressant sur la jeunesse citoyenne en Rhône-Alpes, mais voilà, donc il y a un vrai problème. Comment expliquer qu'ils mobilisent autant de moyens? Autre critique aussi, il s'agit de mobiliser les acteurs, il s'agit de les faire agir, hein, de conduire leur conduite, comme disait Foucault, mais finalement, peu importe qui ils sont. C'est-à-dire que ce qui frappe quand même dans votre travail, c'est qu'il y a une indifférenciation des acteurs mobilisés. Or, tous les acteurs ne sont pas, intéressants au même titre pour les
les organisateurs de la démocratie participative, et là je pense très directement au travail d'Alice Mazo, qui elle montre que grâce au mécanisme de démocratie participative, on change de porte-parole, on substitue finalement, on change d'interlocuteur au moment d'une alternance dans une autre région, et je pense que là, cette indifférenciation me paraît un peu problématique. Et cette obsession du nombre, et dernier élément, cette obsession du nombre, finalement, elle, cette fascination du chiffre, je crois qu'elle est réelle en Rhône-Alpes, je crois, c'est-à-dire, je vous crois, sur Rhône-Alpes, ce que vous dites est assez juste, il y a une volonté de mobilisation de masse en Rhône-Alpes. C'est un peu moins convaincant sur les autres. Il y aurait peut-être une spécificité relative de ce point de vue-là. Et elle peut renvoyer à une autre explication qui serait la nécessité absolue dont vous parlez par ailleurs, qu'ont les acteurs de la participation de démontrer qu'ils font des choses. A-t-on besoin d'aller chercher ce projet, cette machine de mobilisation, de contrôle social, hein, puisque finalement c'est de cela dont il s'agit, cette machine de contrôle social pour expliquer cette fascination du chiffre. Alors, dernier point, toujours sur ce chapitre 9, donc, comme vous l'avez compris, j'aurais tout à fait bien supporté le fait de vous arrêter à la fin du chapitre 8. Hein, j'aurais trouvé que c'était une très grande thèse, nonobstant, ça aurait évité finalement de m'agacer. Je trouve tout à fait légitime, puisque vous êtes en plus, vous faites quelque chose d'absolument remarquable que les sociologues doivent faire en général, c'est vous que complexifiez le réel. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes dans un travail de complexification, montrant les différents usages stratégiques, les variations diachroniques de ce que vous observez. Vous êtes dans la précision analytique, dans une précision analytique extrême que vous abandonnez d'un seul coup pour produire une explication qui écrase tout et, à mon avis, nous permet de voir finalement, au final, assez peu chaud. Donc, je suis tout à fait d'accord pour que vous développiez une critique de l'institutionnalisation de la démocratie au nom de la nécessité d'une forme d'égalité et d'apologie des processus informels, je le comprends tout à fait, mais là, je crois que ce que vous tirez de votre thèse, votre dossier de thèse mérite mieux que les conclusions que vous tirez. Alors, maintenant j'en viens à des questions plus précises. D'abord sur le consensus. Et là encore, c'est une manière de discuter de votre interprétation terminale. Vous parlez d'un consensus, vous parlez d'abord d'un caractère transpartisan de la démocratie participative. S'il y a un consensus, si honnêtement la démocratie participative est le futur de la démocratie, il faudrait constater que tout les forces politiques s'y rallient. Or, ça n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que vous montrez bien, finalement, qu'il subsiste des critiques très fortes, notamment à droite, et que, finalement, une partie seulement de la classe politique, ou des acteurs politiques, il n'y a pas de consensus. Vous parlez de consensus, mais vous ne le démontrez pas. Vous prétextez de ce que les critiques sont assez molles, le fait qu'il y a adhésion sur les fondements, on peut imaginer de la même manière qu'en fait c'est parce que les gens ne trouvent pas ça très intéressant ni très important, que les critiques sont assez peu nombreuses ou assez molles. Bon voilà. Ça c'est la première remarque. Y a-t-il vraiment consensus? Deuxième remarque, sur la question du conflit, est-ce que, là pour le coup, la spécificité régionale, ça a déjà été abordé par Alain Faure, est-ce qu'elle ne vous masque pas le fait que la démocratie participative se pratique beaucoup plus souvent dans des contextes où le conflit existe, hein, autour de débats publics, autour de politiques, de projets municipaux? La caractéristique principale de la démocratie régionale, c'est que finalement le conflit la traverse assez peu, cette démocratie régionale, il y a très peu de dossiers véritablement conflictuels, et est-ce que l'on peut généraliser ce que vous en dites à partir simplement des politiques régionales? Et notamment, par exemple, dans la manière dont vous relativisez l'hypothèse de la concession procédurale officielle, est-ce que ça n'est pas cette possibilité ne vous est pas laissée uniquement du fait de votre objet de recherche? Troisième question, je ne suis pas convaincu par ce que vous dites sur le rôle des universitaires. Je suis beaucoup plus convaincu par ce qu'en dit Alice Mazot, et vous arrivez sur des conclusions finalement assez différentes l'un et l'autre. Quel est le statut? Alors, vous parlez d'alliés, en même temps, vous semblez dire que leur rôle est finalement très très marginal, parce que les acteurs ne le disent pas. Est-ce que ça suffit? Quel est le statut dans votre travail, d'autant que vous consacrez d'assez nombreux développements, à mon avis assez longs, à cette littérature sur la démocratie participative? Est-ce qu'elle fait partie de votre objet, ou est-ce qu'elle n'en fait pas partie? Voilà, puis je vais m'arrêter là, parce que je ne veux pas vous accabler de questions.
Merci, Louis.
Peut-être surtout aux questions.
Oui, bien sûr.
Au point de discussion principal, si vous voulez.
Voilà. Vous avez ainsi dit. Alors, pour apporter quelques éléments, je vous remercie beaucoup de ces commentaires et ces questions. Alors, pour la première série de remarques que vous faites sur mon chapitre 9, qui était bien entendu un chantier exploratoire que j'ai essayé de consolider au fur et à mesure, en essayant toujours de me garder, mais c'est sûr que j'avais placé un garde-fou du fonctionnalisme, un peu pour me rappeler à moi-même aussi vers là où je tendais. Mais au final, chemin faisant, je me suis rendu compte que le détour, notamment par la notion de dispositif, ne me faisait dire ni que la démocratie participative était en train de se répandre comme un seul mouvement à travers la société, ni que le contrôle social était assuré et garanti. Ce que je remarque, c'est que ce que j'ai voulu souligner par cette idée de machine et cette idée de gouvernementalisation, c'est qu'en marge des dispositifs classiques de la démocratie, qui sont le vote, les formes institutionnalisées de représentation ou de participation, comme les conseils économiques, sociaux, régionaux à mon échelle, je remarquais que ça apparaissait de manière de plus en plus fréquente, ces dispositifs, à des endroits de l'action publique, dans des régions dans lesquelles je ne m'attendais pas à les trouver, et que ce mouvement était rapporté à d'autres mouvements dans d'autres pays, où on observait que ces recours étaient de plus en plus systématiques, de plus en plus utilisés, et qu'au final, l'époque démocratique contemporaine dans laquelle on vit actuellement, qui s'ouvre, alors j'aurais du mal à la dater, parce que c'est toujours compliqué avec l'idée d'époque de dater, mais qu'une des caractéristiques de notre époque, c'est justement ce recours. Alors, je ne dis pas que ce recours, ça va comme une fatalité et qui répond à un besoin de gouvernement. J'observe que quand on veut faire et pratiquer la démocratie aujourd'hui, on a de plus en plus recours à ces dispositifs-là, et qu'ils induisent au final une manière de faire entrer la population dans le jeu démocratique qui peut être rapportée, et c'est sûrement là l'angle noir de ma thèse, à d'autres dispositifs concernant le suivi des chômeurs, concernant le traitement de l'immigration, et ça c'est des chantiers issus de discussions et de travaux collectifs au sein du laboratoire et ailleurs que j'ai commencé à explorer. J'avais envie de montrer la voie que j'entendais suivre pour aller au-delà de ma thèse et réfléchir sans avoir la garantie à aucun moment que effectivement il y avait bien un nouveau mode de gouvernement, mais en apportant à partir de mon terrain la preuve, me semblait-il, qu'on avait une méthode spécifique permettant d'inclure la population dans le jeu démocratique. Sur l'aspect de la différenciation des acteurs, sur le fait que le conseil régional se crée des interlocuteurs, moi j'affirme avec une perspective comparative que c'est une partie du problème. C'est-à-dire qu'effectivement, les conseils régionaux se créent des interlocuteurs, le cas du comité de ligne de R est à ce titre édifiant, puisque effectivement, on va mobiliser des réseaux associatifs qui n'existaient pas dans les précédentes majorités pour les mettre un peu au premier rang des politiques régionales. Mais ce que j'ai observé aussi, c'est la montée d'un souci qui dépassait largement ces acteurs. Par exemple, l'obsession de l'absence de catégories de population, que j'entends situer dans ma thèse, concernant par exemple les étudiants, qui ne sont pas dans les comités de ligne et qui créent le drame des comités de ligne, et on va mettre en place un travail administratif absolument énorme pour attirer ces étudiants, on va redoubler de techniques de communication, etc. Le travail des catégories ne s'explique pas uniquement par un rapport entre la région et ses interlocuteurs. Il est présent, mais c'est une partie du problème, et je dirais la même chose pour le nombre. Le nombre de participants, certes, il est extrêmement présent en Rhône-Alpes, il est peut-être un peu moins présent dans les autres régions, tout à fait. mais pour moi, le nombre se rattachait à une préoccupation d'ensemble qui était la préoccupation de savoir qui participe et d'agir sur le qui participe d'une manière ou d'une autre. On multiplie les catégories. Par exemple, en Ile-de-France, dans la consultation du SDRIF, où on va mettre en place une quinzaine de dispositifs censés faire participer 15 catégories différentes, puisque l'obsession, c'est d'avoir non pas 1 million de participants, mais le plus grand nombre de catégories possibles, et de toujours tendre à inclure ces catégories-là, qui ne sont pas forcément des interlocuteurs privilégiés du Conseil régional, mais on veut que ces gens soient présents. Et on fera tout pour qu'ils soient présents. C'est ça que j'entendais dans mes opérations de traçabilité. Alors, pour répondre plus explicitement, plus précisément sur les trois questions. La notion de consensus, je la mets vraiment dans la filiation de ce qu'a pu écrire Dominique Laurent. C'est-à-dire que c'est un consensus sur les formes, c'est-à-dire qu'on va avoir recours, quels que soient les objectifs et les ambitions politiques attachées à la démocratie participative, à un même ensemble de techniques et un même ensemble de manières de faire la démocratie participative. Je ne dis pas que ce consensus est un transpartisan, quoique, sur le cas des comités de l'UPER, un dispositif de droite qui circule jusqu'à une loi de gauche et qui est repris par les conseils régionaux en 2004. Donc ça, mais dans le cas des conseils régionaux à partir de 2004, on a quand même une stabilité de gauche, c'est sûr. Mais comme l'indiquent Yves Saint-Bonnet, Arnier Roqueux et Carsten Herzberg sur les budgets participatifs, dès qu'on monte un peu à une focale européenne, et c'est ce que j'ai fait au niveau des régions européennes, où j'ai suivi un peu différentes régions, on voit que le marquage partisan se dilue. Donc ça, c'était la première indication. Et moi, ce qui m'intéressait dans la notion de consensus, c'est de montrer qu'à chaque fois qu'un élu, quel qu'il soit, ou une coalition d'acteurs, entend avoir recours à la démocratie participative, il fait ça. C'est-à-dire qu'il constitue une liste, il la confie à des fonctionnaires, et il organise un travail permanent de redéfinition sur le qui participe. Cet agencement-là, il revient de manière récurrente. Alors après, il peut disparaître, quoique j'ai essayé de montrer dans ma thèse comment les dispositifs s'enracinaient, notamment par exemple sur un dispositif qui s'appelle les conseils territoriaux d'emploi formation, où j'ai montré que face aux échecs de ce dispositif, on a cherché à faire rester les participants en son sein pour qu'ils continuent d'agir, plutôt que de faire le bilan, ça c'est un choix qui a été fait, et j'en applique responsabilité à personne, parce que j'ai pu observer, on a essayé de sauver le dispositif tant qu'on a pu. Alors il y a certains dispositifs qui sont fragiles, qui se remettent en cause, mais quand même, à chaque fois qu'un dispositif émerge, c'est vers ça qu'on va, de manière un peu systématique. Ma deuxième réponse sur la spécificité régionale par rapport au conflit. Je pense que même au niveau des villes et des agglomérations, et par exemple c'est pour ça que j'ai tendu avec ma grosse hypothèse du consensus à essayer d'élargir au terrain en ville, que je suis en train de travailler encore, et au terrain des villes, des banlieues rouges, ce que montre Émilie Bilan sur le passage d'une socialisation participative communiste classique à une participation de projets de ville absolument déconnectés des conflits sociaux à l'échelle d'une ville, moi ça m'a indiqué que j'étais sur une piste intéressante. Et quand je commence à creuser, par exemple, je travaille actuellement sur la participation au niveau d'un SCOT, d'un schéma de cohérence territoriale, et la grande problématique de la participation du SCOT, c'est le SCOT ne recouvre pas mais de la conflictualité sociale de l'ère territoriale qu'elle entend administrer. Et comment on fait pour raccorder ces deux bouts? Alors, c'est certain que les conseils régionaux ont un rapport plus distancié à la conflictualité sociale. Mais je trouvais que le modèle de la concession procédurale, notamment, permettait d'expliquer formidablement bien l'apparition d'un dispositif, par exemple en Nord-Pas-de-Calais, dans le cas des assises pour l'emploi et le travail, où c'est une réponse à une conflictualité, ça c'est clair, mais elle ne permettait pas d'expliquer le maintien dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait émerger les dispositifs, comment se fait-il que ces dispositifs perdurent? Alors moi je veux bien que la conflictualité sociale soit encore présente, mais je me disais, ça a plus trait au processus d'institutionnalisation que strictement l'effet de réaction des autorités publiques. Donc, je fais l'hypothèse, je pense que mon modèle peut être transposé ailleurs, quels que soient les degrés de conflictualité sociale, sachant que la région en dispose de conflictualité sociale. Donc, sur le rôle des universitaires. Alors, la difficulté que j'ai eue, et j'en ai parlé très souvent avec Alice, c'est que je pouvais établir un modèle proche du sien, pareil, sur un nombre déterminé de cas, mais que j'avais du mal, à partir du moment où j'étais en Bourgogne ou en Ile-de-France,
à retrouver ces mécanismes-là. Et mon souci, ça a toujours été de comprendre les mécanismes à la base. Et donc, je me suis servi, un peu en raconnant sur ce coup-là, de la sociologie de Michel Vallon, avec l'idée qu'on tentait d'intéresser les universitaires à des processus en cours, mais qu'on n'était pas, on garantissait pas leur enrôlement, c'est-à-dire qu'on avait des dispositifs, des conseils scientifiques, des colloques, etc., que je détaille dans mon chapitre 6, où on essayait d'ouvrir la porte aux universitaires, mais ensuite, qu'advenait-il de cette intervention, et pour eux et pour les élus, j'avais plusieurs cas de figure. Donc j'ai voulu y aller doucement. C'est-à-dire que je me suis dit, si dans certains cas, on peut effectivement avoir une vision assez claire de la manière dont certains travaux de sciences politiques ont pu influencer telle ou telle mise en œuvre de dispositifs, par exemple dans le cas du conseil de la conférence de citoyens de l'Île-de-France sur les nanotechnologies, où le modèle de Dominique Bourg sur les conférences de citoyens, Daniel Noir, a été appliqué à la lettre. C'est-à-dire qu'on a pris le livre et on a appliqué la méthode. Donc là, à la rigueur, j'avais un cas très clair d'influence des universitaires. Mais dans d'autres cas, j'avais une influence beaucoup moins nette et je me rendais compte quand même que les acteurs de la démocratie participative agissaient fondamentalement seuls. C'est-à-dire qu'ils s'abreuvaient de références pour ceux qui voulaient le faire, mais j'ai aussi des autodidactes qui ont leurs propres références. Je pense notamment à quelqu'un un des principaux leaders du Parti écologiste Jean-François Caron, qui a une trajectoire intellectuelle propre qui va l'amener à supporter la démocratie participative sans tenir compte de ce qui s'écrit, de ce qui se dit sur le texte. Et donc, moi, c'était cette autonomie-là que je voulais préserver, sans négliger pour autant le rôle des universitaires qui était conséquent. Et à une toute petite échelle auquel j'ai pu être confronté par mon groupe. Voilà. C'est les principaux éléments de réponse que je voulais apporter.
Donc le deuxième rapporteur n'étant pas là, m'a chargé de vous transmettre deux questions qui sont un peu schématiques. Donc dans son rapport, il a dit que l'intérêt que vous avez porté à votre travail, etc. Donc peut-être qu'il y a une des questions qui est un peu, disons, précise, technique, il y en a une autre qui est fort large. Alors la question un peu technique. Monsieur Mitaliti vous demande au fond quelle différence essentielle y a-t-il pour vous entre le partenariat, le partnership en particulier tel qu'il est promu, encouragé par les perspectives de New Management Public. Donc quelle différence y a-t-il entre le partnership et puis la participation à la française ou à la façon dont vous l'entendez. Donc ça c'est la première question.
Oui. Alors, je vais revenir à 30 secondes sur le cas anglais, puisqu'effectivement, c'est un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité en Angleterre. J'ai présenté une communication il n'y a pas longtemps dans un collègue qui porte là-dessus, et je suis en train de construire un projet de postdoc notamment sur cette question-là, où il y a des travaux notamment de Laurent Pratchett, ou de Jerry Stoker, ou de Vivian Lowe, qui montrent comment il y a eu une continuité entre l'agenda conservateur du New Public Management dans les années 80 et le tournant travailliste en 97. Où au final, il montre comment ces techniques de client-centrisme, on va dire, pour aller très rapidement, donc les focus group, les enquêtes qualité, le partnership anglo-saxon, n'a pas disparu avec le travailliste. Le socle de techniques s'est maintenu, mais on a une évolution vers d'autres techniques comme le deliberative visioning, notamment, ou la planification des similis d'une planification territoriale participative. Et je me suis amusé, entre guillemets, et j'essaye de m'en restituer un bout dans ma thèse, à identifier dans ces travaux ce qui pouvait être rapporté à mon schéma. Et j'ai trouvé un ensemble assez conséquent de similitudes, notamment avec, dans les évolutions de cette participation anglaise, avec de plus en plus de tiers neutres, de professionnels de gestion, de plus en plus d'obsession de la représentativité des populations qu'on mobilise, et puis ce souci de faire participer encore et encore sur des sujets donnés. Donc, à mon avis, il n'y a pas de différence, il y a une évolution progressive historique qui peut être expliquée et que j'espère pouvoir expliquer à l'avenir.
Simplement, si tu me permets, pour aller dans l'autre sens, il y a trois semaines, j'ai été contacté par l'ambassade de l'Angleterre en France pour un rendez-vous avec le conseiller en stratégie, David Cameron, pour parler de l'Eurasie participative. C'est une grande surprise. On voit bien que ça s'inscrit dans un temps long.
Ça va dans l'autre sens.
Bien, alors, deuxième question sur laquelle nous voulions passer tout à l'heure du déjeuner et l'après-midi, mais vous êtes aussi capable d'aller à l'essentiel que d'avoir des propos très développés. Donc la question est, au fond, vu le niveau, l'importance des critiques que vous avez élaborées à l'égard des théories de la démocratie participative, qu'est-ce qu'il en reste? C'est-à-dire que vous posez exactement la question. C'était écrit, voilà. Est-ce que s'agit-il d'un concept essentiellement visible?
Alors, sur ce point, moi j'ai eu une approche. J'ai essayé le plus possible d'entretenir avec un dialogue avec les théories normatives de la démocratie, mais pas je pense à Arcon Fung en politique publique, à James Bridge à propos de la représentation, les théories normatives qui m'intéressent énormément. Mais pour ma thèse, vu que j'étais parti dans une déconstruction des usages, j'ai repris un chemin classique qu'on peut retrouver dans les travaux de Vincent Simonin sur la gouvernance, où on dit on maintient une hétérogénéité de sens, une polysémie du terme, pour comprendre ce que les acteurs écrivent. Donc au final, ce qui ressort, ce qu'il reste de la démocratie participative dans ma vision, dans une vision plus normative, et ben ce serait l'aspect gouvernemental que j'essaye de creuser, mais de creuser avec une théorie de sociologie politique assez classique. C'est-à-dire que j'essaye pour moi, la démocratie participative, quand on la nomme comme ça, elle constitue un acte dont les autorités publiques sont à l'origine et qui entend administrer une population. Administrer, ça ne veut pas dire vous appelez dessus avec un bâton, c'est bien à répartir, on va dire. Et donc, moi, c'est ce volet gouvernemental, donc là, normatif, de la démocratie participative qui m'intéresse et que j'ai envie de creuser. Donc pour moi, ce n'est pas un modèle, la démocratie participative, un modèle au sens théorique du terme, au sens normatif. C'est plutôt une réalité, un processus gouvernemental en train de se développer, que j'entends creuser, en fait, dans une perspective profondément historique.
Merci bien. Écoutez, donc, grâce à l'esprit de synthèse, à la fois des membres du jury et de vous-même, donc nous sommes passés dans les temps, est-ce que vous... Nous avons la possibilité de faire une pause de 10 minutes si vous souhaitez, sinon pas forcément. Mais j'ai plutôt changé de considération. Alors, c'est bon. Donc Sandrine.
Alors, Sandrine, merci à Guillaume Bourg déjà de m'avoir permis de participer à ce jury, même si mon corps n'a pas été mobilisé comme ceux des autres. Je voudrais d'abord en fait dire ce qui m'apparaît comme des atouts de cette thèse que j'ai trouvé, comme ça a été dit déjà, tout à fait remarquable par bien des aspects, et j'en reviendrai évidemment aux points qui m'apparaissent eux plus discutables. Dans le fond, c'est propre des bonnes thèses que de donner à discuter. Alors, sur les aspects plus positifs, d'abord, je trouve qu'il y a d'excellentes questions. Moi, j'ai trouvé que cette volonté s'intéresser aux raisons et à la façon dont la démocratie participative vient aux régions françaises est vraiment une très bonne entrée, une question excellente, et vous nous donnez à voir de façon extrêmement concrète et consistante au nom de quoi se fabrique ce consensus participatif et comment les dispositifs sont inventés et mis en œuvre. Donc ça, c'est une vraie qualité d'avoir posé cette bonne question. Deuxième atout, je crois que la force de la thèse, elle tient au cas d'analyse. Ça a été dit par Loïc Blondiau, un cas qui, en plus, est bâti aussi par cet effort de déconstruction et de reconstruction, en mobilisant une sociologie de l'action publique, une analyse des politiques publiques, des théories de la démocratie. Donc ça, j'ai trouvé en plus l'exercice plutôt très bien mené dans le premier temps de la thèse, donc la première partie, qui permet en plus de penser dans un même mouvement ces dispositifs, les contextes politiques et administratifs régionaux, et surtout cet accent placé sur les acteurs, leur stratégie, les contraintes qui pèsent sur eux, les coalitions. Donc, je trouve qu'il y a effectivement un travail là, tout à fait bien mené à l'aide de ce cadre d'analyse, encore une fois, très consistant. Qui est consistant d'ailleurs parce que je dois aussi saluer votre la richesse de la littérature que vous avez mobilisée, sa diversité, elle est extrêmement bien maîtrisée de mon point de vue, et la qualité des discussions que vous proposez là aussi sont très très stimulantes. Donc tout ça est évidemment un atout tout à fait fort de la thèse. Autre atout également de cette thèse, ça tient à son parti pris résolument empirique. Là aussi, ça a été dit. Je veux aussi l'admiration qui est la mienne pour cette enquête réalisée avec une diversité de méthodes, hein, de méthodes de recueil de matériaux, des questionnaires, des entretiens, observations participantes, mais aussi l'ampleur et la diversité du corpus de textes et de la littérature grise que vous avez exploré et mobilisé. Et on a le sentiment que rien n'échappe à votre sagacité, que vous savez faire votre miel de tout ce qui vous passe par la main et que vous le restituez de façon extrêmement précise, minutieuse, ça a été dit. Le tout servi aussi par cette approche comparatiste qui était essentielle pour répondre à la question que vous posez. Alors, sur les résultats, parce qu'il y a effectivement des résultats, une thèse, et là aussi c'est plus que louable, je crois que ce qui est également un atout de la thèse, c'est que ce travail qui est mené depuis le très bas et le très concret, vous permet d'asseoir une des observations clés, une des premières observations clés de cette thèse, c'est qu'il n'y a pas de diffusion homogène et sans heure d'un impératif délibératif depuis le haut, mais qu'il y a des régions qui fabriquent une autre type de participation par acclimatation, recyclage de dispositifs déjà là, d'expérimentation, de traitement. Leurs impressions ne sont pas toujours bien claires, ou elles sont pour le moins hétérogènes, et elles réagissent les régions, plus souvent, après les acteurs vers lesquels vous êtes tourné, à des situations politiques et ou administratives tout à fait spécifiques. Donc il y a un vrai intérêt à voir comment ces dispositifs se mettent en œuvre de façon très située, contingente, et avec cette autonomie sur laquelle vous venez à maintes reprises. Alors j'y reviendrai parce que là il y a un point de discussion semble-t-il, mais en tout cas vous voulez nous démontrer qu'il y a de l'autonomie dans cette mise en œuvre. Vous insistez aussi sur les trajectoires d'acteurs en parallèle des coalitions. Là aussi, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant de ne pas avoir seulement des bienveillants, mais montrer qu'il y avait parfois la rencontre fortuite entre une trajectoire personnelle et en contexte une situation. Que les coalitions d'acteurs sont par ailleurs, mais c'est propre des coalitions peu consistantes et extrêmement fluctuantes. Au fond, on a le sentiment que ce que vous nous montrez, c'est surtout qu'il y a peu, parfois pas, vraiment de politique participative à l'échelle régionale. Si ces régions font de la démocratie, si on peut suivre au concret des actes tout à fait réels et des dispositifs qui ont une effectivité, eh bien, il n'y a pas toujours, et en tout cas pas nécessairement, de politique participative intégrée. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure dans la discussion. Deuxième élément clé, c'est une des interprétations centrales de votre thèse, c'est de nous dire que ces dispositifs ne comptent pour les régions que par leur capacité mobilisatrice, ce sont des machines de participation. Alors, j'y reviendrai là aussi, vous en faites au fond des dispositifs qui s'apparentent aux machines de mobilisation électorale, avec cette double idée, qu'il s'agit de mobiliser en faisant venir les citoyens participants et en faisant bouger et déplacer leur corps, mais aussi en faisant advenir des citoyens conformes, en tout cas un dispositif qui aurait aussi vocation à transformer des corps sociaux en corps civique. Donc là, vous en faites, la discussion a déjà démarré sur ce point, un des principales entre le principal enjeu de ce consensus participatif, et vous nous dites quand même de façon très nette que produire des effets en termes procéduraux ou même décisionnels, substantiels, ne serait au mieux qu'un objectif second, et la plupart du temps un objectif qui n'est même pas pensé par les acteurs que vous avez observés. Déjà, il y a une thèse qui est à la fois originale, même si elle renvoie à des lectures déjà croisées, elle appelle en tout cas discussion, même si je dois dire qu'on est tout à fait convaincu par les indicateurs hein, qui sont les vôtres, cette obsession de la logique comptable, le rôle des fichiers, des listes, cette traçabilité, au fond, quand on a travaillé sur ces terrains, on sait qu'il y a de ça absolument, indéniablement, dans ces dispositifs, mais je reviendrai donc sur les limites hein, de cette interprétation aussi. Et enfin, dernier élément sur les résultats, moi, je crois aussi qu'il faut saluer cet effort constant de ce souci de monter en généralité, au fond, de proposer hein, des réflexions théoriques. Je crois que là, c'est aussi un point à mettre à votre actif. Alors, vous faites de ces machines de participation des éléments participant à la gouvernementalisation des conduites politiques individuelles. Et au final, vous dites que ce sont des dispositifs qui participent d'une police, hein, au sens financière, avec cette question que vous posez, qui est évidemment une question redoutable, qui serait au fond que tout ça doit contribuer, devrait contribuer à la dévitalisation d'espaces publics démocratiques sauvages. Celui qui n'est pas régi par les procédures et les machines ou les dispositifs. Alors vous ne tranchez pas de tout ce débat, mais en même temps, il y a indéniablement une tonalité critique à votre thèse, ce qui la rend facilement, mais je dois dire qui fait que voilà, vous engagez intellectuellement, ça a été dit, il y a une vraie prise de risque. Donc moi, cette qualité, évidemment, que je voudrais souligner, et j'espère qu'elle ne vous quittera pas bien sûr. Alors, je voudrais maintenant venir au point plus problématique, ou en tout cas pour le moins discutable. Alors, en disant d'abord, mais Loïc l'a dit avant moi, que effectivement le caractère éprouvant de cette thèse voilà, est un peu... je m'étais dit, je ne vais pas le dire, je ne sais pas trop en faire, mais en fait, je dis si, allez. Il faut que ça soit dit. Alors, donc, je ne voudrais pas tellement la longueur, et à la fin, on l'a dit également. Moi, je peux comprendre qu'à l'issue d'une recherche empirique aussi remarquable, on est ravi de restituer de façon aussi complète par le menu le fruit des observations, des lectures, des analyses. Et je comprends d'autant mieux qu'au fond, c'est le seul moment de la vie d'un chercheur où on a cet espace pour le faire. Après tout, c'est de bonne guerre, j'allais dire, et ça n'est pas la longueur que j'ai pris. En revanche, moi, ce que j'ai trouvé terrible et éprouvant, c'est la façon dont vous avez construit cette thèse, le document, ce mode de restitution que j'ai trouvé fort peu heureux et surtout qui rend les choses inassimilables. Alors, bon, là aussi, nos corps ont des limites, les miens en tout cas, et... il y a eu des moments vraiment où ça a relevé du supplice, vraiment du supplice, et en particulier dans votre partie 2 sur le terrain, pourtant c'est vrai qu'on attend vraiment avec bonheur, après cette première partie d'ailleurs qui est remarquable, on se sent entre de bonnes mains et on se dit ça va être formidable, et bien non, c'est pas ça qui se passe, parce que vous avez retenu une entrée, une succession d'entrées par région, et alors ça, voilà, je me suis dit, mais comment cette bonne idée a pu venir à votre esprit, avoir la lecture épuisante, c'est en particulier lorsqu'il s'agit de décomposer les temps électoraux, les préélectoraux, enfin, je dis, même là, vous voyez au moins pu avoir une approche de ce qui se jouait pour les enjeux préélectoraux, la campagne, la mise en politique, etc., il n'a plus intégré la région, maintenant, là, c'est encore découpé, donc il y a un côté, voilà, je fais exploser façon puzzle, qui pouvait se présenter de façon plus intégrée, et alors même que vous avez, je crois, j'en suis sûre, puisque vous avez des tas de moments où vous démontrez vos talents de synthèse, donc c'est pour moi incompréhensible, et surtout, le problème, c'est pas tant l'épuisement qu'est le nôtre, par conscience professionnelle, au fond, on est allé jusqu'au bout, mais c'est que ça finit par faire douter de la pertinence de la portée du raisonnement général. On se dit qu'il n'est pas capable, à un moment, d'intégrer le tout, et bien, ça rend les choses un peu suspectes. Et pour tout vous dire, ça ne sera pas écrit dans le rapport, mais ça m'a rappelé ce que je me suis dit, mais pourquoi je suis si agacée, et ça me rappelle un agacement du même type, un épuisement du même type, et il se trouve que ça m'a rappelé mon ascension du Python de la Fournaise à la et pour les mêmes raisons, donc c'est vraiment dans ce physique, et en plus votre thèse ressemble à la topographie précise, une murale qu'on descend tranquillement en zigzag pour apprivoiser le vertige, une grande plaine dont on a l'impression qu'elle va être facile et qui est redoutable, parce qu'il y a du soleil, etc. Et en plus, quand on arrive au point épuisé, il faut enfin gravir et faire le tour du volcan proprement dit. Et alors là, je ne vous dis pas dans quel état on est. Donc je crois que c'est vraiment qu'il faut les entendre. Et si je serai évidemment la première à insister sur une publication de travaux, je crois qu'il est inimaginable que cette thèse soit publiée. Alors, non seulement l'État, parce qu'il faut la raccourcir, mais il ne faudra pas seulement la raccourcir. Je crois qu'il faut vraiment la raccourcir. Alors, maintenant que c'est dit, je voudrais revenir avec un certain nombre de points. Alors, le premier, deux points critiques. Un premier, qui est plutôt léger, on va dire, qui n'est pas fondamental. Mais je reviens sur cette notion politique participative, puisque moi j'ai vu votre travail avec cette idée-là, en me disant, les gens qui fabriquent de façon plus ou moins consistante une politique participative. Alors c'est pas tellement comme ça que vous présentez. Vous avez même à un moment des remarques sur le fait que vous ne voulez pas dire que certaines régions sont en avance par rapport à d'autres parce que ce serait normatif, mais il me semble que sans prendre le risque de la normativité, on peut à un moment indiquer que d'une région à l'autre, il y a ou pas, ou peu, ou réellement une politique qui se constitue. Et j'en viens d'ailleurs à quelques remarques sur le tout début de votre thèse et la façon dont vous exploitez le questionnaire, les réponses que vous ont apportées les régions. Il me semble là en tout cas, moi, j'ai pas envie de vous suivre sur ce que vous induisez, notamment l'absence de réponse. Vous me dites, il y a des régions qui n'ont pas répondu, cela prouverait que la démocratie participative ne fait pas sens du tout pour cette région. C'est un indicateur que vous tenez, alors même que vous indiquez quelques lignes plus loin que vous avez obtenu des réponses là où vous aviez des contacts personnels et que vous avez pu les activer. Donc là, il y a une petite interrogation de ma part. Et que par ailleurs, quand vous dites que les régions qui ont répondu le fond parce qu'elles sont dans cette recherche de médiatisation et c'est l'exemple de Moitou Charente, là aussi je trouve que ça réduit un peu les choses et que peut-être cette idée d'existence ou non d'une politique participative intégrée mériterait d'être peut-être avancée en guise d'hypothèse et aurait pu être d'ailleurs décomposée ou rendue opératoire pour l'ADEME. Deuxième point, alors vous insistez sur, je l'ai dit, le fait que cette offre publique de participation résulte de contexte, de situation, de jeu d'acteurs, qu'elle serait d'accord avec une réponse au point assez contingente, mais surtout construite de façon autonome par les acteurs régionaux. Alors, on vous suit tout à fait quand vous dites qu'elle. Cette offre ne répond pas à une demande sociale, et là on sait qu'elle est improbable, incertaine, assez ambivalente. On peut signaler d'ailleurs en écho l'ouvrage dirigé par Enquêtin, la figure de l'habitant qui se pose la question, et je regarde comment cette demande sociale est construite. Donc là, il n'y a pas de souci, je serai plus dubitative, ou j'aurais davantage envie de discuter l'absence d'effet du législateur. Alors, certes, il n'y a pas forcément et pas toujours de réglementation à l'origine de ces dispositifs. Elles ne répondent pas, ces institutions régionales, à des obligations réglementaires. Quand il y a quelque chose comme une obligation ou une incitation réglementaire, c'est vrai que les textes ne disent pas grand-chose sur comment il faut faire. Mais en même temps, je dis, on pourrait aussi élargir la focale et ne pas occulter le fait qu'en la matière, il y a quand même énormément de textes qui traversent d'ailleurs d'autres institutions et que vos régions vos conseils régionaux, il ne semble pas que leurs frontières soient hermétiques pour qu'ils ne soient pas sensibles, à ce développement hein, juridique et réglementaire. Donc je relève ce qui a été dit tout à l'heure par Loïc. Au fond, nous pouvons bien sûr comprendre que les acteurs que vous rencontrez, quand vous les interrogez, quand vous les observez, ils ont tendance à insister sur le fait qu'ils n'ont pas eu besoin des injonctions réglementaires pour faire la démocratie participative. On entend ça tous les jours sur le terrain et en même temps, il me semble qu'on peut mettre en doute hein, ce type d'affirmation. Alors d'autant plus qu'il y a un vrai étonnement en lisant votre thèse. Alors sous réserve je ne dois pas passer à côté d'une information, dans la multitude d'informations que vous nous livrez, mais il semble que, alors que les régions sur lesquelles vous êtes penchées ont toutes été traversées par des grands projets d'équipement qui ont fait l'objet de procédures de débat public, et que, en fait, pour l'aspect grand procédural, mais en infra, on pourrait dire aussi que les régions ou dans les communes, il y a d'autres niveaux de compétences, il y a de dispositifs, mais revenons au débat public, j'ai un peu que personne n'en parle jamais, alors même que les conseils régionaux sont généralement non seulement des participants, mais peuvent être même impliqués au financement des infrastructures, donc ils ont plus une raison d'être dans ces dispositifs. Et donc là, je suis très étonnée de ne pas voir, au fond, ces dispositifs être évoqués. Alors, je me suis demandé si c'était un effet de votre entrée. Hein, j'ai regardé votre type d'entretien, donc vous les interrogez sur... Qui récit de vie, hein, vous me demandez à quel moment ils ont croisé cette démocratie participative. Donc est-ce que c'est parce que vous travaillez sur les régions que les acteurs régionaux eux-mêmes ont compris et n'évoquent pas d'autres expériences? Est-ce que c'est aussi une hypothèse tout à fait recevable où font les acteurs, ce qu'on constate, qu'ils ne font pas le lien entre des machins communs, des chercheurs, des associations effectivement dans un même mouvement? Donc là, j'avoue que j'aimerais bien vous ayez peut-être un élément de réponse à cette question la présence d'autres procédures non régionales, mais qui se jouent sur les territoires des régions et auxquelles une partie des acteurs que vous avez rencontrés ont pu participer. Et en fait, une façon d'interroger aussi le degré d'autonomie des acteurs en la matière. Deuxième point de discussion, vous revendiquez une approche qui est marquée donc, par le néo-institutionnalisme, et on vous suit tout à fait, vous montrez qu'il y a des contextes institutionnels spécifiques avec une forte logique de précise qui a un point de position derrière l'institutionnel, et c'est d'ailleurs ce qui vous permet hein, d'asseoir cette idée d'une autonomie, d'une convergence. Et à moi, ce qui m'a manqué, et là où je ne vous suivrai pas jusqu'au bout, c'est qu'il me semble que tout ce qui est la dimension, on va dire, culturelle, ça renvoie au récit, mais aussi sur des idées, hein, c'est un épaisseur historique, que travaillent d'ailleurs certains courants néo-institutionnalistes, qui mettent ça comme un élément tout à fait clé, ça n'apparaît pas chez nous, ça ne compte pas parce que les acteurs que vous rencontrez, et vous voulez nous les défendre comme ça, sont au fond des pragmatistes. Hein, des pragmatistes, vous seriez assez proche ici de la philosophie pragmatique à la dimoué, qui dit au fond, il y a des expériences, des expérimentations, et qui produisent des normes éventuellement. En tout cas, il y a du sens qui est construit après coup. Et d'ailleurs, cette idée géniale de dimoué qui serait de dire, d'ailleurs, au moment. Les démocraties participatives deviennent une norme, une valeur qui s'impose à tous. Les acteurs sont déjà en train de faire autre chose, qui n'a pas encore de nom, hein, mais ce nom sans doute apparaîtra. Donc là, on a le sentiment que les acteurs, seraient pragmatiques, vous les voyez comme ça. Des fois, on pense que c'est aussi la posture qui serait la vôtre. Hein, vous auriez envie plutôt de penser avec vous. Et je dois dire qu'autant, je trouve que les approches qui sont assez évidentes, en même temps, elles ont une limite, il me semble, qui est autour de cadre comme s'il n'y avait pas de mémoire d'histoire. Et je trouve qu'il y a des tas de moments dans votre thèse où on voit bien quand même que ces acteurs, alors ils disent inventer des choses, mais ils inventent tous la même chose. Et puis au fond, quand ils sont en situation de passer à l'acte, ils savent très bien où aller chercher les références. Donc ils ont bien, ils sont conscients qu'il y a un mouvement qui les dépasse, qui les précède, et dans lequel ils vont aller puiser des ressources. On va à la lettre, on l'appelle Louis Blondiot, même si on va l'utiliser, donc c'est... Enfin, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose, qui est très précède. On est tous là. Voilà, donc, je pense que moi, c'est cette dimension, alors je le dis, parce que, effectivement, c'est plutôt comme ça que je raisonne, hein, c'est pas forcément, ça n'invalide pas votre approche, mais il semble que ce qui se joue du côté de l'histoire des idées, la culture qui travaille les acteurs et les institutions, me semble manquer, et je n'arrive pas à croire que tous ces acteurs sont des acteurs sans mémoire. Hein, voilà, je suis femme en fait à un moment dans votre démonstration. Enfin, dernier ensemble de remarques autour de la même idée sur ce qui est votre thèse centrale, ces dispositifs comme machines hein, de participation et de mobilisation qui participent à la gouvernementalisation des conduites individuelles. Alors, je l'ai dit, c'est une thèse forte, séduisante et pour une bonne part convaincante, mais évidemment, j'ai un certain nombre de problèmes. Alors, d'abord, il y a, je crois, un effet de. Ce qui est contestable, c'est l'effet de réduction. Hein, c'est le fait que ces dispositifs, au fond, eh bien, réduisent à ces dimensions mobilisatrices. Tout autre enjeu est passé au second plan, voire même pas travailler. Alors, ça n'avale pas encore une fois des observations. Hein, je crois que vous avez raison d'être invité sur ces aspects, mais je trouve que ça pose un problème au moment de la montée en généralité. Puisque vous affirmez que ce qui vaut pour les régions observées, vaut pour toutes les régions et encore davantage, vous voulez en faire une loi générale. D'ailleurs, vous dites la preuve, c'est que quand je regarde ce qui se passe en Angleterre, quand je lis une dividende, ben voilà, c'est la même chose. Alors moi, excusez-moi, mais là, je trouvais que c'était un peu rapide. Hein, et alors, je ne connais pas le cas arrivé, mais en revanche, sur le travail des dividendes, je trouve voilà, c'est là aussi réduire son travail que de passer au prisme de votre interprétation. Et puis, pour ma part, j'essaie de faire l'exercice, hein, de dire, bon, ben, je me remémore les terrains, les procédures que je connais, et voyons si ça fonctionne. Et ça ne fonctionne jamais jusqu'au bout. Hein, ça ne fonctionne jamais jusqu'au bout. Alors, en particulier, là où ça fonctionne moins bien, c'est sur les débats publics. Hein, de toute façon, CNDP, parce que pour le coup, comme ça a été dit, mais la dimension conflictuelle qui est au fond le moteur de l'organisation. La machine, là, bien sûr qu'elle se pose le souci de savoir s'il y aura bien des gens dans ces réunions, tout le monde se pose ce genre de questions. Et là, en fait, j'ai des débats comme des machines qui mobiliseraient des corps, voire alors corps défendants. Ça résiste difficilement aux situations concrètes où vous avez des opposants hein, aux projets qui sont mis en débat, qui n'ont certes pas besoin hein, que la machine s'occupe de leur corps, qui ça demande, parce que vous avez très bonnes raisons, compte tenu des rapports sociaux, des rapports de force dans lesquels ils sont pris, d'affréter des cars, d'affréter des bateaux. Je pense qu'au terminal métallier, le gouvernement pourra être d'accord à répandre dans votre région. Hein. La vitesse, je veux dire, la CPDP, le maître d'ouvrage, sont un petit souillé quand ils savent à quel point il va y avoir la foule ce soir dans la réunion. Donc, je trouve qu'il y a des tas d'exemples qu'on pourrait mobiliser qui, oblige quand même à nuancer, ou en tout cas à modérer l'idée que ce serait si central et qu'on pourrait réduire ces dispositifs à ces aspects-là. De ce point de vue d'ailleurs, je trouve de façon générale dans votre thèse, Simon, mais ça a été dit, on n'imagine pas les 1000 pages de plus que vous avez pu faire sur la question, donc vous serez pour votre ATR, mais non, c'est la société. Hein, au sens où vous êtes évidemment très très fin dans l'analyse des rapports de force entre les acteurs du monde politique, administratif, tout ça c'est très très bien vu. Bon, alors, Alors, vous pouvez pas aller voir peut-être du côté des citoyens. En revanche, moi, ce que je vous reprocherais, c'est de ne pas faire l'hypothèse qu'il y a aussi là des rapports sociaux et des acteurs sociaux qui ont de très bonnes raisons de se déplacer eux-mêmes sans qu'il y ait cette logique de mobilisation à leur corps dépendant. Donc là aussi, c'est une remarque que je voulais vous faire. Alors, enfin, dernier élément, je trouve que, enfin pas dernier élément, c'est dans un fouillis de ce que je viens de dire, quand vous venez placer au second plan la question des enjeux qui seraient vraiment des enjeux procéduraux ou substantiels, alors vous les inventez un peu, assez superficiellement, mais page 652 notamment et 663, il y a une discussion hein, sur les effets de la machine de participation, notamment sur les règles institutionnelles. Donc là, je trouve que c'est assez ambigu, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, parce que là, par exemple, vous dites deux choses. Vous dites à la fois, il n'y a pas d'effet, hein, et toutes ces machines de participation sont là pour assurer la sécurité aux instigateurs, et surtout que rien ne bouge, et en même temps, vous laissez entendre, au fond, qu'il y a bien quand même de la discussion sur les règles, et peut-être une incidence et des effets de ce type. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce point de vue, même si c'est toujours évidemment des affaires complexes. De prendre la mesure des effets en la matière. Et enfin, une dernière chose, j'essaie de trouver des excuses, d'essayer de comprendre pourquoi vous aviez été parvenu à donner une telle centralité à cette interprétation. Alors, vous vous demandez, en premier lieu, s'il n'y avait pas un effet Campana. Alors, effet Campana, parce qu'effectivement, quand Campana est là, eh bien, il y a de la masse dans les dispositifs, et c'est vrai qu'il a une conception et une méthode assez efficace, hein, il faut le dire, pour faire bouger ceux qui ont d'ailleurs tant de mal à bouger par ailleurs, les jeunes, hein, les habitants des quartiers d'achat collectif. Enfin, voilà, il y a vraiment là quelque chose de tout à fait spécifique. Donc, je me suis demandé, voilà, est-ce que c'est un effet Campana hein, qui traverse ou a imprégné votre interprétation. Plus, plus sérieusement, je pense qu'il y a un effet, comme le disait Alain Faure, de la jeunesse de l'institution régionale. Donc, on comprend, si l'on en juge par les enquêtes de l'OIP, d'ailleurs depuis longtemps, que ce niveau qui a du mal à fabriquer une identité régionale se pose ces questions et soit obsédé par ces questions de mobilisation lorsqu'il veut faire de la démocratie participative. Hein. Bon, il y a ce problème de l'appartenance à la région, on sait hein, que c'est un des éléments, ce n'est pas le seul, qui favorise la participation. Donc, à identité régionale faible, peut-être il y a effectivement obsession hein, de la mobilisation tout à fait forte. Et je ne m'étonne pas d'ailleurs que vous identifiez, que vous observiez la même chose dans les métropoles. Hein, pour qu'ils se confrontent exactement à la même chose. En revanche, quand on est du côté des vieilles institutions, c'est moins clair peut-être, hein, les vieilles institutions, pour se compter les quartiers, pour être comme ça, mais où les moments extrêmement conflictuels, où les procédures, au fond, on n'a pas besoin de suivre comment faire plus souvent, parce que le conflit fabrique les publics. Voilà, alors, je vais m'en tenir là,
parce que ça fait déjà beaucoup.
Ça fait déjà beaucoup. Donc, déjà, de toute façon, j'ai dit au démarrage, évidemment, il y a des tas de choses que je voudrais discuter, c'est dire, hein, c'est l'intérêt que cette thèse présente. Je regrette d'ailleurs de ne pas pouvoir changer pour d'affaires à la suite de la libération. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion, évidemment, sur entière, je vous promets qu'un jour, j'aurai une discussion avec vous là-dessus.
Merci, Sandrine.
Merci.
Merci beaucoup, encore une fois, pour les questions et les commentaires. Je vais essayer encore de maintenir le rythme synthétique pour qu'on puisse rester avec l'épreuve de l'écrit. Alors, juste un point sur la construction générale et la fausse bonne idée de la construction. J'ai longtemps hésité, j'ai l'impression que c'est un peu le problème de tout travaux comparatistes qui essayent de réfléchir à comment rentrer le plus subtilement possible dans cet effort comparatif. Bon, manifestement, j'ai commis une erreur. J'ai essayé de ne pas faire un chapitre par région. J'ai voulu restituer un même processus entraînant derrière lui quatre régions. Ça induit des effets de lourdeur de style et d'administration de la preuve sur lesquels j'ai réfléchi. Mais de toute façon, il est bien clair que la structure du travail qui va sortir de cette thèse sera complètement différente de l'administration proche de ce processus, puisque là, je me suis rendu compte moi-même des limites de se dérouler, mais j'ai voulu maintenir une entrée thématique par chapitre dans lequel je brassais mes quatre régions pour pas juxtaposer quatre cas d'études. Et du coup, je reporte le problème plus bas et du coup, je rejuxtapose quand même quatre cas d'études. Donc, c'est vrai que j'ai pas su sur quel pied danser, mais j'ai essayé de le monter comme ça. Sur la politique participative, moi je me suis en fait sur l'idée de classer les régions, en tout cas de les rapporter les unes aux autres en fonction de ce qu'elles faisaient, et d'état d'avancement ce qu'elles faisaient. Moi j'ai travaillé avec et contre le néo-régionalisme. C'est-à-dire que j'ai essayé de me détacher de cette tendance portée par John Loughlin ou par Michael Flynn, qui n'est pas présent, de créer des indicateurs du développement de tel et tel aspect des politiques régionales. Je pense à l'article de Ougi et Mars sur les indicateurs d'autorité régionale, par exemple, qui leur permettent de rapporter les régions les unes aux autres. Moi, j'ai voulu déconstruire ça, avec aussi l'obsession qui m'est venue, notamment de Vincent Dubois, de ne pas procéder à des effets de reproduction sur ce que je voyais et de ne pas dire les politiques participatives sont en germe. Et là où elles ne sont pas, elles seront. Ou en tout cas, j'ai une politique publique de la démocratie participative en œuvre. Donc j'étais parti sur cette idée-là, et puis en me confrontant un peu plus finement à l'analyse des politiques publiques, j'ai progressivement déconstruit ce modèle pour montrer que il y avait plus d'activité dans certaines régions que dans d'autres, mais que rien ne permettait, au vu de mes résultats, de pronostiquer sur l'avenir et sur un degré de comparabilité en termes de classement. Sur les contextes, la situation et les acteurs, sur l'absence d'effet du législateur, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que un des points avec et contre lequel j'ai pensé, c'est l'idée du climat participatif, qui revenait de manière un peu récurrente dans les travaux, et je trouvais qu'on allait un peu vite en besogne en rapportant des éléments de législation avec un ensemble de dispositifs qui apparaissaient. Et moi, j'ai voulu comprendre comment ces éléments législatifs, que je ne conteste pas du tout, et au contraire, j'y ai été particulièrement attentif, et aussi les conflits d'aménagement, pouvaient transparaître dans mon enquête. Et en fait, le résultat que j'ai obtenu, c'est qu'ils ne transparaissent pas, ou en tout cas très peu. Je prendrai un exemple. Il y a eu un conflit en Nord-Pas-de-Calais autour de l'instauration d'un anneau ferroviaire pour tester les TGV et les faire rouler à toute vitesse dans la région. Il y a eu une opposition des habitants à ce projet qui l'a fait échouer. Ça, c'est un élément de traumatisme pour la majorité régionale qui a vécu cet échec comme un affront et qui a, on va dire, cautionné l'implantation de dispositifs participatifs qui étaient portés par d'autres. Mais le temps que je remonte à cet élément-là, c'était un des éléments de contexte qui me permettait de comprendre pourquoi les dispositifs apparaissaient, mais l'impact de ce conflit d'aménagement était incertain, un peu comme le Lyon-Turin au niveau de la région Rhône-Alpes, avec les oppositions qui sont un peu une toile de fond, ou de ce qui se passe ici autour des nanotechnologies, qui constituent un peu des toiles de fond de conflictualité, qui peuvent alimenter le besoin de mettre en place des démarches participatives, mais j'en suis resté vraiment à une déconstruction de ce que disaient mes acteurs et la manière dont ils rassemblaient des éléments hétérogènes, de théories, d'idées, de trajectoires personnelles, d'événements, etc., en essayant de restituer ça. Et l'État est moins absent qu'au final un élément parmi d'autres de ce schéma-là. Alors au niveau des... Au niveau, si j'arrive à retrouver mes notes, je vous demande une petite seconde. Alors, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah voilà. Alors, sur le néo-institutionnalisme, j'ai évoqué le néo-institutionnalisme centré sur les acteurs parce qu'il me permettait de ne pas trancher. Puisque dans les catégories du néo-institutionnalisme, en tout cas telles qu'elles sont présentées, on a un aspect calculateur des acteurs et un aspect un peu plus socialisé de ces acteurs qui sont les porteurs d'institutions, de cultures, etc. Dans les travaux de Fritz Scharf et de Renate Meintz, j'ai trouvé un équilibre entre Meintz qui insiste sur l'aspect socialisé des acteurs et comme quoi ils sont les porteurs d'une culture, d'une institution qui vont, dont ils sont les médiateurs, et puis un aspect plus calculateur, proche du choix rationnel que Fritz Sharpe, notamment dans son ouvrage qu'il a écrit seul après l'article que je cite beaucoup, qui me convenait plus dans mon approche stratégique. C'est-à-dire que, en me plaçant d'emblée dans une analyse stratégique, j'ai volontairement minoré certains aspects liés à la culture et à l'insertion. Mais j'avais besoin de ces éléments-là, de penser les acteurs stratégiques. C'est un peu ce que je racontais sur les récits. C'est que j'avais besoin de voir comment les éléments de culture, d'idées, etc., étaient mobilisés par les acteurs en vue d'une stratégie. Mais j'assume le côté calculateur que j'applique, en tout cas l'analyse calculatrice que j'applique aux acteurs. Je ne dis pas qu'elle se suffit, loin de là. Je pense que j'ai effectivement pas assez pris en compte un certain nombre d'éléments culturels, mais dans mon cadre d'analyse, ça me semblait plus logique de pencher vers cette forme de néo-institutionnalisme. Et soit dit en passant, Olivier Ney, qui a constitué une référence essentielle de mon travail, ne tranche pas non plus. C'est-à-dire que dans sa thèse et dans son ouvrage qu'il a publié après sa thèse, il y a à la fois cette idée que les acteurs sont des agents rationnels, et en même temps des acteurs collectifs socialisés à une même culture. Et il maintient ce double cadre, et que j'ai voulu garder, en fait, que j'ai voulu préserver, en inscrivant dans la figuration de ce travail. Sur les effets de réduction, ça va un peu dans le même sens. C'est-à-dire que j'ai procédé très immodestement sur le principe de ce que j'avais lu dans Qui gouverne. C'est-à-dire, je compare plusieurs situations, et à la fin, je fais le bilan sur ce qui reste. Et Gandal nous dit, ce qui reste, c'est le maire, dans ces situations de polyarchie. Ben moi, j'ai voulu me dire, qu'est-ce qui reste? Et ben moi, ce qui restait, c'était mes techniques. C'est-à-dire que les stratégies politiques se succèdent, les élus changent de profil, les histoires divergent, mais au bout du bout, les seuls éléments tangibles sur lesquels je peux m'appuyer, c'est ça. Et donc l'effet de réductionnisme, il vient de là, et quand je l'ai appliqué à d'autres travaux, alors c'est un exercice de style cette application, je mouille pas les bilans dans mes propres perspectives, mais à force de lire des articles sur la démocratie participative, je me suis amusé à annoter à chaque fois que ces éléments étaient visibles et explicitement montrés. Et j'ai pris les travaux anglais et les bilans comme deux exemples de cette démarche-là, où je me suis dit, ça colle. Il y a quelque chose qui revient à mon schéma, et donc j'ai tenté de construire ce dialogue-là, que je serais ravi de poursuivre avec Émilie Dubin si le cœur lui en dit évidemment. Et du coup, sur l'effet réductionniste, j'en profite pour répondre en même temps à Louis Blondieu, que je n'avais pas répondu, sur le côté un peu absent de la société civile, dont en plus après je me fais le garant d'autonomie, ou en tout cas d'une réflexion. J'ai voulu et j'ai maintenu un cadre que j'espère être rigoureux en disant je ne prendrai en compte les participants, la proaction des participants, que pour cette fois quand je la verrai. C'est-à-dire que je ne fais pas l'hypothèse que les participants sont passifs, je fais juste l'hypothèse qu'ils ne sont pris en compte dans l'appareil politico-administratif que très rarement. Et en fait, quand ils sont apparus, notamment dans le cadre des comités, des conseils emploi territoriaux, emploi des CPF, je l'ai dit. J'ai montré la mobilisation, j'ai montré que ces acteurs intervenaient, j'ai montré qu'ils protestaient. Mais ce que j'ai observé, c'est que dans la plupart des dispositifs, sinon tous, ces participants-là existent par le biais des statistiques qui sont produites à leur encontre. Et qu'au final, eux, en tant que personnes et en tant qu'acteurs interlocuteurs, ils sont là, mais ils sont plus discrets. Ou alors, il y a une combinaison entre l'espace dialogique et non-dialogique, pour reprendre les expressions qui permettent de cadrer le débat, entre des participants qui sont dans les dispositifs participatifs, mais qui entretiennent par ailleurs des négociations bilatérales avec le Conseil régional. Je pense bien évidemment à la FNO, à la FRAPNA, à des associations qui ont des voies d'accès au Conseil régional, qui n'ont pas besoin des espaces de participation, mais qui y sont quand même. Donc, je voulais surtout pas donner l'impression que les participants attendaient sagement pour les appels, mais dans le cas des conseils régionaux, c'est ce dont je me suis rendu compte. Et sur notre remarque sur la CNDP, moi je ne dis pas du tout que la démocratie participative ne répond pas à une conflictualité sociale. Sur la CNDP, je ne peux que souscrire. J'avais chroniqué l'ouvrage sur la CNDP, je m'y suis intéressé autant que j'ai pu. Je ne veux pas du tout dire que les opposants sont absents de ces dispositifs-là, etc.
que je remarque, c'est que dans, il y a quand même une tendance à produire des espaces de participation en dehors de cette conflictualité, qui ne concerne pas tous les dispositifs, mais qui en concerne un certain nombre, dont, et notamment tous ceux que j'ai étudiés, tous, sans exception. Donc, je me suis permis de faire cette remarque en disant, comment se fait-il, alors peut-être que c'est lié à mon cadre régional, j'en suis quand même moins sûr, puisque à l'échelle urbaine et à l'échelle de défis, c'est quand même aussi visible, comment se fait-il que ces dispositifs-là aillent chercher les participants plutôt que de les plutôt que de les laisser devenir. Et par exemple, j'avais pas mal bouclé aussi à propos de ce qu'avait fait Jane Fishkin à propos du non au référendum danois sur l'adhésion à l'euro. On a un cas dans lequel on a une conflictualité sociale évidente avec des mouvements politiques hyper organisés, mais on va quand même produire une machine qui va chercher les participants au lieu de cadrer, enfin au lieu. En tout cas, on ne va pas seulement cadrer avec la conflictualité sociale, on va créer un dispositif à côté, dont on va dire après, il pourra intéresser les partis, il pourra intéresser les associations, etc., etc. Donc, moi, c'est sur ce double processus de production autonome, je ne dis pas qu'il est complètement coupé ou qu'il se substitue, je dis juste qu'il est complémentaire et qu'il est en train de se développer de plus en plus. Et dans des villes où il y a dans des agglomérations où il y a des conflits sociaux très forts, je suis toujours surpris de voir comment, à quel point les enjeux de la participation publique ont tendance à être en décalage. Par exemple, en Nord-Pas-de-Calais, on est en train de plancher, comme quoi je rentre pas tant que ça, vous savez ce mot, on est en train de plancher sur la mise en place d'une commission régionale du débat public, et toute la question est comment cette commission est capable de cadrer avec les conflits sociaux présents sur le territoire. Et comment la rendre autonome vis-à-vis des seules préoccupations des politiques publiques régionales. Donc c'est un peu tout le débat qu'on a. Sur les effets, est-ce qu'il y a effet, s'il n'y a pas effet? Alors là aussi, je suis en train de creuser beaucoup plus cette question que ce que je l'ai fait. Ce que j'affirme, c'est que les effets, par exemple, des dispositifs participatifs sur les politiques publiques, ne peuvent être compris en dehors d'une analyse rigoureuse des sous-systèmes d'action publique. C'est à partir du moment où on a bien saisi les configurations d'acteurs autour d'un sous-système, hein, j'invente rien, je reprends les cadres notamment de Paul Sabatier autour des coalitions d'acteurs, c'est un peu mon cadre d'analyse fétiche. Et quand on a compris les rapports de force entre coalitions dans les sous-systèmes, on peut envisager les effets des dispositifs participatifs sur l'action publique. Mais ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, et c'est pour ça aussi qu'elle est aussi longue, c'est que sous-système par sous-système, on a des effets très différents, assez contingents, et qui au final peuvent difficilement être rapportés à une même théorie des effets. Et il en va un peu de même sur la manière dont bougent les règles institutionnelles régionales. Certes, la démocratie participative a permis aux élus lambda, on va dire, à certains d'entre eux, de se mobiliser contre les déséquilibres entre exécutif et législatif, notamment. Mais ça, je l'ai observé de manière épisodique, donc ça existe, mais de manière trop épisodique pour en faire l'objet d'une théorisation, pour en faire un discours sur les effets. Alors, je ne nie pas qu'il y a des effets, mais j'avais peur de m'inscrire dans une espèce de prophétisme incrémental, en disant, effet par effet par effet par effet, on aboutira à un changement dans les équilibres politiques, partisans, administratifs. Peut-être. Moi, je suis tout à fait prêt à l'entendre. Mais compte tenu de mon enquête, je me sentais mal à l'aise d'avancer dans ce terrain-là. Et sur la jeunesse de l'institution régionale, pour finir, certes, l'obsession, alors évidemment, les enquêtes de l'OIP, le caractère inconnu du Conseil régional vis-à-vis de la population, est un élément de mise en tension, de dramatisation de la nécessité de faire la démocratie participative. Par contre, ce que j'ai observé, c'est par exemple, dans certains secteurs d'action publique, le fait que la population connaisse la démocratie participative importe peu les élus. Je pense notamment aux opérations en Bourgogne qui ont été menées sur les projets de pays, où au final, l'enjeu, c'était quand même de sauver la politique des pays. Donc, cet élément-là, encore une fois, c'est une toile de fond, mais j'ai eu du mal à le sentir concrètement dans la mise en œuvre des dispositifs. Et en ce sens-là, oui, je suis peut-être un peu trop pragmatique. C'est que j'ai tendance à vraiment me soucier du calcul d'intérêt des acteurs et de voir comment ils réagencent des éléments qu'ils possèdent, donc culturels, etc., dans le but de mettre en place des dispositifs. Et pour le dire vite, j'ai eu l'impression, et je l'ai pu le vérifier à plusieurs reprises, que le discours de la région jeune, il venait un peu quand ça arrangeait. C'est-à-dire qu'il y avait certains moments où on disait oui, mais la région était une institution jeune, et puis il y avait d'autres moments où personne ne nous parlait de ça, et où ce n'était pas du tout de ce dont on était en train de parler. Donc, c'est un élément de rhétorique, j'ai l'impression, dont j'ai eu du mal, encore une fois, à faire un élément d'analyse fort. Et donc, j'ai essayé de prendre en compte le plus possible, mais je ne voulais pas extrapoler à partir de ces éléments-là. En plus, on va dire, il y avait un effet, c'était tellement fort comme hypothèse de départ dans la littérature sur les régions, que j'avais peur de trouver ce que j'étais venu chercher, en fait. C'est-à-dire des institutions faibles qui cherchent à se légitimer. Donc, une fois que j'avais vu ça, et il m'est arrivé de le voir, je me suis dit, et alors, une fois que ces institutions se légitiment, ou en se légitimer, est-ce que c'est la seule ambition que j'ai dans la compréhension des dispositifs participatifs? D'autant plus que les conseils régionaux disposent d'instruments de légitimation bien plus forts que la démocratie participative. À la rigueur, pour se légitimer, les conseils régionaux n'ont pas besoin de la démocratie participative. Ils ont déjà une armature, des dispositifs, une institutionnalisation qui fait que broyer mon terrain dans cette hypothèse initiale où j'aurais de toute façon montré que c'était vrai, ça me semblait un peu compliqué. Et j'ai eu notamment beaucoup de discussions avec Catherine McArthur, avec Romain Pasquier, justement sur cet aspect-là, au moment où j'avais participé aux joint sessions de l'ICPR sur ces questions-là, sur ça veut dire quoi la politique régionale? Est-ce que c'est qu'une affaire de légitimation? Et quelle voie on a pour rapprocher ces politiques régionales à des processus plus vastes? Ce qui explique certains penchants que j'ai. Et c'est une volonté de dépasser un certain nombre d'hypothèses de recherche. À mon avis, trop fort, qui permettent au bout d'un moment de ne plus voir grand-chose, ou en tout cas de seulement sélectionner des éléments qui nous arrangent. Donc j'aurais pu faire ma thèse, par exemple, uniquement sur les comités d'élus, et montrer ça. J'en aurais tout à fait les moyens. Mais j'ai voulu sans cesse élargir les dispositifs pour essayer de comprendre ce qu'il y avait au-delà. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Oui, merci.
Merci.
Bien, M. Bourg, pour finir cette donc, quelques remarques. J'étais impressionné par l'ambition de votre travail. L'essentiel a été dit, qui conduit une très très ambitieuse recherche empirique, très approfondie, avec un souci constant de théorisation, de montée en généralité. Ce que vous avez aussi dans votre travail, c'est une sorte de quelle limite, mais de combinaison des niveaux d'analyse. Vous êtes surtout à un niveau maison, on va dire, dans le dispositif, mais enfin, très rapidement, on accède à des données qui sont au niveau du micro, et très facilement, vous ouvrez des portes, des fenêtres, vous détruisez des bâtiments, vous reposez les choses à un niveau vraiment fondamental, un niveau complètement, disons, méso, qui est macro, pardon, qui est souvent impressionnant. Alors, moi aussi, j'avais une métaphore musicale, j'avais noté ça, mais alors moi, oui, c'est Weber. C'est Weber parce que Weber, parce qu'à la fois, il y a le côté Shostakovich à certains moments, c'est-à-dire au moins 140 cornes, dont 40 violoncelles qui jouent à fond, et puis des moments, au contraire, des solos de haute voix, etc. Mais le problème avec votre travail, c'est que vous nous infligez l'écoute de l'intégrale des inconditionnels. En micro-activité. Donc, donc, d'abord, ce que j'ai apprécié dans votre travail très rapidement, j'ai trouvé d'abord que vous prenez, on sent que vous prenez très au sérieux les les pratiques de démocratie participative. Donc, vous nous faites grâce de discussions sur le monde enchanté de la nouvelle gouvernance, et en même temps, très rapidement, on comprend, comme vous venez de le rappeler, que l'hypothèse de la concession procédurale, de la mystification dont seraient porteurs les dispositifs participatifs, c'est pas votre hypothèse non plus. Donc, vous essayez de vous situer entre les deux. Donc, dans une démarche pragmatique, vous intéressez vraiment aux activités telles qu'elles se déploient, au sens que donnent les acteurs. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est surtout, finalement, vous essayez de rendre compte d'un chantier, d'un travail toujours en train de se faire. Comment est-ce qu'on concrétise la démocratie participative, et ça donne des moments tout à fait réussis, en particulier sur, par exemple, sur Rhône-Alpes, sur les choix d'outils, les modes d'énonciation, les organisations de colloques, etc. Je trouve ça vraiment, vraiment réussi, et également, c'est assez évident, même plutôt vers la fin d'ailleurs, comme si on attend la page 624 pour que vous assumiez le fait d'avoir une première perspective pragmatique. En fait, ce qui nous intéresse, c'est les supports de la démocratie participative, bien, les inscriptions, les procédures, et ce qui est malin, et très bien dit, c'est aussi comment, finalement, ces supports-là créent, finalement, une sorte d'invisibilité, hein, de l'institutionnalisation. Je trouve que ça, c'était j'ai bien apprécié aussi tous les éléments que vous donnez, cas par cas, disons, par région, sur la généalogie des dispositifs, sur leurs emboîtements, sur les reformulations, voilà, donc je ne décline pas ça, je trouve que ça s'était bien fait. Et puis ça n'a pas été trop relevé jusqu'à présent, peut-être on a un peu relevé quand même. J'ai bien apprécié aussi, par rapport à une perspective de politique publique assez générale, ce lien que vous faites toujours entre policy politics, dans votre présentation des cas, dans le développement des politiques participatives, et la souligner sur l'usage que vous faites de la notion hein, de coalition, aussi bien les coalitions transpartisanes que surtout les coalitions politico-administratives, et le caractère géométrie variable de la mobilité de ces coalitions. C'est ça qui est important. Voilà, donc j'aurais beaucoup de choses positives à faire, mais comme nous sommes là depuis déjà 2h30, c'est plutôt les points de discussion. Alors, tout cet approfondissement, aussi bien théorique qu'empirique, fait que vous avez bien évidemment les défauts de vos qualités. Et que ce besoin d'approfondissement permanent et d'exigence que vous avez à l'égard de vous-même, etc., fait qu'il y a une sorte de, on sent chez vous, quelque chose de compulsif sur le encore plus. Et on peut dire que vous ne nous faites grâce de rien. Et je crois qu'on l'a dit les uns et les autres, tout le monde a parlé des preuves et tout ça. Enfin, je crois qu'il faut aimer votre directeur de thèse, si vous voulez, pour ne pas dire, écoutez, bah, finalement, je suis malade, je ne pourrais pas être disponible, je ne pourrais pas le faire, elle me prend pas mal, mais. Et puisqu'on est sur les traces matérielles, je vous donne un indicateur. Oui, je m'intéresse. Par exemple, avec les caractères contemporaines, vous avez quelque chose de Welbeckien. C'est-à-dire, à un moment donné, ce n'est même pas un tunnel. On part, mais on ne sait pas quand on va s'arrêter. C'est un exemple de voyage un peu intersidéral. Vous avez des pages, et la liste est longue, où il y a à peu près deux fois plus de textes en note de bas de page, donc corps 8, interligne 0, enfin quelque chose, que de textes de votre argumentation principale. Et ce n'est pas qu'au début, hein. Vous en avez bien ceux qui font, c'est pareil là, mais on en retrouve 246, page 732, etc. Des pages où on ne sait plus ce que vous êtes en train de nous dire. Et Sandrine, je crois qu'elle l'a dit à sa façon, c'est qu'il y a des moments où le fil se perd. Dans la construction générale, je pense que quand vous en ferez bien sûr un ou des ouvrages, je pense que moi je n'ai pas été si impressionné que ça par votre introduction et votre première partie, parce que je trouve ça extrêmement répétitif, ludique. Vous posez le cadre général, c'est théoriquement impeccable, hein, il manque pas un bouton de lettre, il y en a même beaucoup, beaucoup de boutons. Mais si par exemple, vous le faites en introduction et vous refaites une première partie in extenso sur toutes les théorisations de démocratie participative. Moi, je n'ai pas été tout à fait séduit par le chapitre 8,
parce que si tu posais la question de son statut, parce qu'au moins il y a au moins trois choses différentes, vous voyez, donc c'est décortiqué pour savoir qui peut poser problème. Je me disais, on va enfin avoir une analyse transversale des différents terrains à genoux. Bah, sans parler de comparatif, on a bien compris, oh là là, non, c'était bien. Quelque chose de transversal, vous voyez, on peut savoir une perspective. Non, c'est pas ça, parce qu'en fait, très rapidement, on arrive sur cette partie où il y a les moteurs matériels de la démocratie participative, alors déjà entre le début et la deuxième sous-partie, etc. Et puis, ça se finit à nouveau sur des cas concrets. Donc, si vous voulez, ce chapitre 8, il est à peu près aussi hétérogène que vos dispositifs. Autre observation, c'est sur le chapitre 9, on ne peut pas ne pas en parler, puisque vraiment, je pense que c'est pour vous hein, une sorte de. C'est un peu le qui final, et ça vous honore hein, d'avoir fait ça. Si on peut le dire, c'est aussi une thèse très courageuse, vous prenez des risques, vous vous exposez. Voilà, hein, c'est pas une thèse suisse, si je puis me permettre. mais alors, je l'ai trouvé, le chapitre 9, un peu surdimensionné par rapport, au fond, à ce que vous avez dit avant. Que vous ayez ce souci théorique qui vous honore, c'est extrêmement louable. Mais est-ce que vraiment ce que vous nous avez montré jusque-là mérite ça, ou du moins soutient finalement ce que vous avez, ce que vous avancez, si vous voulez, ce que vous discutez. Si vous voulez, j'ai trouvé que, autant les choses, par exemple, c'est que votre présentation et votre utilisation de la notion de dispositif de Foucault est remarquable, hein, parce que voilà, c'est souvent un mot, j'ai beaucoup à discuter ça, parce que bon, voilà vraiment la différence entre les outils, les instruments, les dispositifs et tout ça. Donc j'avais regardé il n'y a pas très longtemps, un peu plus près ce que c'était, je trouvais que ce que vous en faites est excellent. En même temps, cette expression de machine de participation, alors ça m'a déçu. Parce que je trouve le terme qui m'a dit, c'est pas une machine, hein, moi, même sans le prendre, au sens technique du terme, je trouve que le terme que vous avez choisi est inadéquat par rapport à l'immense hétérogénéité que vous nous avez présentée jusque-là. Je ne vois pas comment on peut, à un moment donné, faire ce travail-là. On est au-delà de la réduction, c'est une sorte d'artefact comme ça qui débat, on ne sait où, parce que simplement, ce que vous nous avez montré n'est pas en avant le fait qu'il y ait des stabilités dans le fonctionnement, qui est dans le même sans parler des effets, mais dans les mobilisations que ça crée. Ben voilà, donc j'ai trouvé que cette expression était. Assez frustrante, et je pense que vous êtes capable de suivre. Voilà. Avant deux questions pour finir, ce que j'ai quand même regretté, alors moi je suis un empiriste, vous savez, là, comme ça, donc il y a quand même quelque chose qui m'a manqué, je me suis dit, mais j'ai regardé quatre fois le plan des annexes, évidemment. Non seulement il y a des grandes modes d'attache, mais aussi, alors on dit que ce que je ne trouve pas, c'est que moi, ça y est, mais j'étais très étonné qu'il n'y ait pas à un endroit une présentation, on l'attend dans le chapitre 4, sur une présentation de la diversité de vos dispositifs de façon un peu synthétique. Qui soit en soi transversal, vous voyez, genre un truc qui vous ferait complètement honte, je ne le ferais pas, mais ça peut aimer, vous voyez, genre un tableau à double entrée. J'ai des fiscalistes là, vous voyez, un truc qui juste permettrait de se repérer. Voilà, et qui montrerait aussi que l'unité que vous prenez d'analyse unité régionale, c'est une facilité. Vous avez beau la justifier mille et une façons, on aurait pu voir combiner, disons, des formes régionales avec des formes de dispositifs. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas sociologiquement, faire des violences au réel. Je trouvais que c'était vraiment. Ça manquait, ça manque de mon point de vue, et je pense que c'est
pense qu'il pourrait y avoir intérêt à mettre ça, à travailler ça. Alors peut-être pour terminer, deux choses. Puisque vous avez fait... Et alors, ce sujet de la traduction, vous savez, là, on dit toujours que c'est à l'article de l'école, et que dans ses recommandations à la fin, il rappelle que quand on fait une analyse, il est très important de garder, enfin, d'avoir une égalité de traitement de tous les acteurs, les gagnants et les perdants. Et alors, j'ai trouvé que finalement, votre analyse, elle supporte beaucoup sur les cas cardiologiques ou les contextes qui ont été le plus, disons, productifs comme Ronald. Donc, j'aimerais que vous donniez quelques éléments de plus sur la Bourgogne, où on voit que l'institutionnalisation de la démocratie participative est faible, disons, hein, et comme vous le dites, elle reste plus un thème d'action et de proposition, essentiellement cantonné dans les jeux politiques locaux, avec à la fois la démocratie participative, il est peu défendu, elle reste un objet d'affrontement politique. Donc, vous voyez, c'est un peu comme Latour étudie finalement Aramis, hein, donc c'est l'échec des techniques. Donc, c'est aussi intéressant la boîte noire étant, ne s'est pas encore refermée, hein, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus, finalement, qu'est-ce qui, selon vous, permet de comprendre cette très faible institutionnalisation? Est-ce qu'il y a des groupes d'opposition, des groupes de groupes? Est-ce qu'il y a eu des affrontements sur les définitions de la démocratie participative qui n'ont jamais abouti, au fond? Voilà. Est-ce qu'il y a un manque d'antériorité, d'apprentissage, peut-être des pratiques antérieures? Est-ce que l'échec des comités de ligne, finalement, a... Voilà. Donc, j'aimerais que vous disiez quelques mots là-dessus. Et donc, deuxième question finale, qui revient vraiment à cette question que les prédécesseurs ont tous soulevé, c'est votre titre, hein. Cette idée, cette hypothèse d'un consensus, là aussi c'est comme les machines, je trouve que ça c'est assez inadéquat par rapport à l'hétérogénéité, la fragilité des dispositifs que vous nous avez présentés. Et donc ma question porte sur finalement le choix, ce que vous appelez les trois piliers de l'institution participative. On est beaucoup, c'est tout à fait... D'un côté, c'est tout à fait convaincant, mais avec les fichiers, les professionnels, la traçabilité, le suivi. Si ce n'est que, vous voyez, je n'ai pas réfléchi longtemps, mais ces trois critères, ça s'applique à beaucoup de choses, à beaucoup d'autres situations. Ce n'est en rien spécifique du participatif. Prenez par exemple tout ce qui est des activités de collecte de fonds, hein, de fin de magazine, c'est bien constitué des fichiers, c'est fait par des professionnels, du savoir-faire sur la communication, etc. Et c'est fait sur du suivi. Hein, qui donne quoi, quand, avec le téléphone, et on peut en prendre d'autres exemples. Donc pourquoi ces trois variables-là, vous en faites finalement, pas seulement le coût de votre processus participatif, mais un peu les résultats principaux de votre thèse, et pourquoi n'avez-vous pas, ma question c'est plutôt ça, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu construire comme indicateurs, transversaux, des indicateurs qui porteraient davantage sur les procédures d'échange, sur la diversité des groupes, sur le niveau d'implication, sur le niveau d'interaction avec les décideurs. Alors, il me semble qu'il y a un certain nombre aussi d'autres éléments qui pourraient être considérés comme des piliers du consensus participatif.
On a perdu.
C'est embêtant sur la démocratie. Voilà.
Je pense qu'il pourrait prendre une bonne école. Donc voilà, sur ces deux points, donc un peu sur la Bourgogne, et puis pourquoi pas d'autres critères.
Merci encore pour ces commentaires et ces éléments de discussion. Alors, sur le vocabulaire de machine, c'est une erreur à ne pas reproduire, mais qui m'a permis, si vous voulez, de cristalliser les quatre éléments que j'ai essayé de résumer dans ma présentation. Je pense que c'est pas vraiment une excuse, mais on va dire que ce que je sous-entends en voulant utiliser machine est en train de se compliquer avec le temps, et notamment, au final, je me rends compte que la littérature sur les instruments de l'action publique a beaucoup plus influencé que ce que je croyais. Et au final, je me rends compte que il y a des ponts évidents à faire, que je vais essayer de faire au colloque en janvier prochain, puisque je présente un papier là-dessus, où j'essaie de me débarrasser de ce vocabulaire de machine pour ouvrir une réflexion sur le dispositif en tant que tel. Et sur le côté surdimensionné de mon chapitre 9, j'ai justement, en fait, l'ambition de tout ça, c'était de trouver un moyen de faire dialoguer mon terrain sans en faire l'apothéose d'un renversement du monde en général. C'est-à-dire que je trouvais que, chez Foucault, j'ai trouvé, notamment dans la notion de dispositif et dans la notion d'époque, j'ai trouvé, alors ça va vous sembler un peu gonflé, mais j'ai trouvé de la modestie dans sa capacité à extraire quelques éléments, à extraire peut-être des éléments empiriques, pas omniprésents et totalisants, mais des éléments qui nous apprennent quelque chose sur le monde dans lequel on est. Et moi, j'étais parti dans cette focale en me disant, qu'est-ce que ces petites choses, qu'est-ce que ces têtes d'épargne, pour reprendre une expression d'un rapport, peuvent me dire sur la manière dont on gouverne aujourd'hui et dont on entend gouverner aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai mis une série d'hypothèses, justement, en reprenant les travaux des professeurs, en reprenant des choses que j'ai lues, en reprenant ce que nous dit Alain aussi sur l'état du consensus. Et du coup, ça me permet de répondre à vos dernières questions. Parce que si j'ai focalisé sur ces éléments, c'est justement parce qu'ils n'étaient pas propres à la démocratie participative. Ce qui me fascinait dans ces éléments, c'est que je ne les trouvais pas. Et je me rendais compte, progressivement, au travers de discussions, de travaux que j'ai eu l'occasion de lire, sur les enfants, sur les études des personnes précaires, etc. J'avais l'impression d'avoir, et sur le plan sur la démocratie diminuée, sur l'évolution des structures associatives, et j'avais l'impression que tous ces acteurs-là, les entreprises aussi, je pourrais rajouter, convergent vers une même manière de mobiliser les gens. En fait, et que la démocratie participative institutionnelle, c'est le nom que donnent les régions à ce mouvement, à cette progression-là. Et ce qui m'intéresse, justement, de rattacher cette démocratie participative à d'autres dispositifs. À voir la manière dont on traite les immigrés, dont on traite les précaires, dont on traite les participants, etc., et d'essayer de tracer un fil, et ce fil, ce serait celui-là. Et j'ai pas réussi à mener ce travail avec d'autres indicateurs. Notamment, je voulais faire un boulot sur est-ce que je peux placer les effets des dispositifs participatifs de région en région. Est-ce que je peux dire que dans certaines régions, il y a eu plus d'effets sur les institutions, sur l'action publique que dans les autres régions, et j'ai échoué. J'ai essayé de construire patiemment ces indicateurs. J'ai fait mes tableaux à double entrée. Ils ne figurent pas dans ma thèse, mais ils sont dans toutes les communications que je donne. J'ai vraiment fait le travail de synthèse et j'en étais pas satisfait. Donc je l'ai écarté en me disant, là j'ai quelque chose. Et je vais pouvoir tendre la main à des gens, je pense à l'édition de Mouvement qui a été publiée il y a pas longtemps sur les fichiers, qui m'a particulièrement intéressé. Donc des signaux qui me viennent d'autres champs de recherche et qui m'invitent à poursuivre ce champ-là. Donc je réduis la démocratie participative pour essayer de me propulser dans des discussions qui la dépassent, en fait, et qui, tout en prenant au sérieux les discussions qui animent, moi je suis encore les deux pieds dedans, mais c'est quelque chose qui me passionne. Mais j'aimerais essayer de voir comment je peux tricoter autour de ça. Et sur la région Bourgogne, c'est aussi le deuxième article que je suis en train d'écrire, que sur la région Bourgogne. Sur les éléments de la région Bourgogne, il y a ce que j'essaie de montrer, c'est comment, en situation de blocage, et je reviens sur ce qu'on a fait sur cette situation de blocage, où je restitue le dialogue entre le président de la région et le président du groupe écologiste à propos de l'instauration d'une conférence citoyenne sur les nanotechnologies. Où, au final, le président de la région adresse une forme de non-recevoir de ce projet au président du groupe vert, qui était par ailleurs sorti de la majorité à l'époque. Et donc, je me sers de cet exemple pour vous montrer que via l'action des veto players, c'est évident. À partir du moment où le cabinet présidentiel et le président bloc, tout est fini. La logique de coalition n'existe plus, puisque à un moment il y a une décision, elle est prise et on n'en parle pas. Ce que je voulais montrer, c'est comment, en région Bourgogne, même quand il ne se passe rien, on va dire, au niveau de l'affichage,
l'affichage participatif de la région Bourgogne est très discret. On ne la considère pas comme étant une région. Et c'est pour ça que je l'intégrais dans mon panel. Parce qu'elle a dit vouloir en faire en 2004, et puis après, on s'y permet un peu. Je suis allé voir comment certains acteurs passaient par la bande et pour mettre en place des dispositifs plus discrets, avec notamment l'importation du budget participatif, qui a transité par la tendance rénovée maintenant du Parti Socialiste, Christian Paul et Philippe Gomel, et comment ces acteurs-là ont mobilisé leur réseau pour essayer d'en faire quand même, et passer au-delà des veto players. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, dans un premier temps, la démocratie participative, pour aller très vite, est principalement utilisée pour justifier nos impôts, c'est les forums participatifs de 2004. Dans un deuxième temps, on a la volonté de sauver la politique de contrat de pays par Christian Paul qui introduit une démarche campagne LM. Dans un troisième temps, on a la volonté d'exemplarité du vice-président Lycée qui veut montrer son autonomie et qui veut montrer l'autonomie de son courant politique au sein du Parti Socialiste. Et donc, il va chercher les budgets participatifs des lycées en les appliquant contre l'administration et en arrivant, en les institutionnalisant, à les faire non seulement accepter par la présidence, mais en plus à les faire apparaître comme un élément de communication du conseil régional. Aujourd'hui, les budgets participatifs des lycées sont un des dispositifs phares du conseil régional des Bourgogne. Et dans un troisième temps, les bricolages beaucoup plus discrets autour d'un dispositif incertain, que sont les comités d'INPER, par un vice-président communiste qui a une tradition de la mobilisation par ces dispositifs-là. Il a conduit un référendum consultatif sur le maintien d'un service hospitalier dans sa circonscription. Comment il va se servir de ces comités d'INPER pour mobiliser les associations existantes, la FNOT en tête, qui est largement impliquée dans la création de ces instances, et les syndicats cheminots SNCF pour exister face à la SNCF et revendiquer l'intensification de l'offre et en créant une espèce de nouvelle communauté qui est ce que j'appellerais la communauté d'action publique, c'est-à-dire les conseils régionaux et les usagers ensemble dans un même mouvement revendiquant contre les opérateurs la mise en place de plus d'offres, de moins d'efforts de tarification, etc., etc. Donc voilà, et le cas de Bourgogne m'a vraiment aidé à comprendre comment ce dispositif circulait au cas par cas, et que le point névralgique de tout ça, c'était les sous-systèmes d'action publique. Et c'était uniquement en comprenant ces sous-systèmes que je comprenais le design et les effets des dispositifs participatifs. Donc, Bourgogne est perdante, mais ça m'a vraiment donné un contre-cas, parce que on parlait des états de mon bureau, on va dire que c'est pas la région Bourgogne qui l'a rempli mon bureau. Il y a très peu de données disponibles. J'ai dû vraiment creuser, faire beaucoup de travail empirique pour trouver des traces de matériel de ce qui existait sur les budgets participatifs, notamment. Et quand je les ai trouvés, je me suis rendu compte que c'était les mêmes pendant pas de temps, en Bourgogne et en Île-de-France.
Merci beaucoup. Je pense que c'est une qui a choisi politique. Oui. Bien, je vous souhaite un petit moment.